Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Mobiliser l'armée pour vacciner plus de 750 000 bovins du Sud-Ouest. Réponse du gouvernement à la grogne des agriculteurs insatisfaits. Ils restent mobilisés ce matin. 0,008, c'est le pourcentage de petits colis importés dans l'Union européenne contrôlés. Un parapluie troué, nous dit un rapport dévoilé ce matin qui s'inquiète aussi de la qualité des produits importés. La démission d'un maire opposé à une décision de justice qui l'oblige à marier un étranger sous OQTF.
La contestation agricole s'étend.
75 points de blocage recensés hier soir, c'est 32 plus que la veille et le mouvement devrait encore gagner du terrain aujourd'hui. 8e journée de mobilisation, malgré les annonces de Sébastien Lecornu qui fait de l'épidémie de dermatose nodulaire une urgence absolue. Entre deux réunions sur le sujet, le Premier ministre qui recevra les syndicats du secteur vendredi a demandé le renfort de l'armée pour acheminer des doses de vaccins. Elles seront administrées à 750 000 bovins dans le Sud-Ouest, a précisé la ministre de l'Agriculture, loin toujours des revendications de ces agriculteurs rencontrés par Célestin Bougère sur un point de blocage au sud de Toulouse.
Près de leur tracteur garé sur la 64, beaucoup d'agriculteurs ont écouté attentivement les annonces d'Annie Genevard. C'est le cas de Benjamin, il est éleveur. Même si la vaccination des bovins s'accélère, lui est déçu de voir que la ministre n'est pas revenue sur l'abattage systématique des troupeaux contaminés.
Donc aujourd'hui, on ne l'a pas, on ne l'a toujours pas.
On parle de vétérinaires de l'armée qui vont venir vacciner les bovins. Est-ce que quand même ça montre qu'il y a une volonté d'accélérer?
Oui, alors sur ça, je pense que c'est une bonne chose parce que moi j'ai vacciné hier matin. Bon, nous, on est nombreux sur l'exploitation, mais il y a des exploitations où c'est qu'il manque de la main d'œuvre et ça, pour le coup, c'est la meilleure des annonces.
En Ariège, où la dermatose nodulaire a été détectée, les 1000 exploitations du département seront intégralement vaccinées d'ici le 31 décembre. Ce n'est pas assez rapide pour Jérôme Bail, leader du mouvement de la 64.
Nous, on parlait d'une vaccination sous une semaine. Les vétérinaires travaillent samedi, dimanche. Ça fait une semaine qu'on aurait dû commencer à vacciner. On n'a pas les doses. Voilà, c'est ras-le-bol, quoi.
Les agriculteurs qui ne comptent pas lever leur barrage tant que leurs revendications ne sont pas entendues, y compris sur la ratification de l'accord européen avec le Mercosur.
Un accord qui doit être signé cette semaine. Si la France a demandé son report, le Sénat a voté hier une résolution invitant le gouvernement à saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire barrage à cet accord de libre-échange. La FNSEA appelle de son côté à des manifestations demain à Bruxelles. L'Europe, qui pour venir en aide au secteur automobile en crise, renonce au tout électrique en 2035 sur les véhicules neufs. La Commission a assoupli ses règles et autorise la vente de voitures thermiques au-delà de cette date. Le budget de la Sécurité sociale pour 2026 définitivement voté par les députés. Pas de surprise, hier à l'Assemblée nationale, après deux mois de débat, le texte profondément remanié a franchi sa dernière étape parlementaire. Il acte la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2028. Et s'il vient à être validé par le Conseil constitutionnel, d'autres mesures, Amélie Courtet, devraient rapidement entrer en vigueur.
La création d'un congé de naissance d'une durée d'un ou deux mois, il s'ajoutera au congé maternité et paternité existant et sera indemnisé à hauteur de 70% du salaire net le premier mois, 60% le second. Autre nouveauté, la consultation médicale longue dédiée à la ménopause pour les femmes âgées entre 45 et 65 ans. Consultation pour laquelle les médecins ne pourront pas faire de dépassement d'honoraires. L'objectif est de mieux les informer et repérer les facteurs de risque. La durée des arrêts de travail désormais plafonné, un mois pour une première prescription, deux pour un renouvellement. Côté recettes, une hausse de la CSG uniquement sur les produits d'épargne financière, donc pas les produits d'épargne comme le livret A par exemple, et la taxation exceptionnelle des complémentaires santé à hauteur d'1 milliard d'euros.
Et place désormais à l'examen du budget de l'État. Cette fois, ce sera vendredi en commission mixte paritaire. Un rendez-vous ce matin sur RMC, 7h40. Antoine Vermorel-Marquez, votre invité, Apolline, le député LR de Loire, vient présenter les conclusions d'un rapport présenté aujourd'hui sur les petits colis issus dans leur grande majorité de plateformes chinoises. Shein, Temu, AliExpress, ils inondent le marché européen. La France n'est pas épargnée. 800 millions de ces petits colis sont arrivés sur le territoire l'an dernier. C'est 5 fois plus qu'il y a 3 ans. Le problème, Louis Salé, ce sont les contrôles minimes pour ces produits bien souvent dangereux.
Moins de 0,01% des petits colis importés ont été contrôlés en 2024. Et lorsque leur contenu est vérifié, près de 9 produits sur 10 sont non conformes. Ces jouets, ces habits, ces objets électroniques présentent des risques pour la santé, la sécurité et l'environnement. Les conséquences sont aussi économiques puisqu'ils ne respectent pas nos normes. C'est de la concurrence déloyale qui participe à la désindustrialisation du pays, selon les auteurs du rapport. Les députés recommandent d'alourdir les sanctions contre les plateformes, de renforcer les contrôles au niveau des douanes et d'en réaliser certains à l'étranger avant importation. Le rapport propose enfin de taxer à l'échelle nationale les petits colis à hauteur de 5 euros.
Pilonner le narcotrafic en tapant encore une fois au portefeuille des consommateurs, c'est la volonté d'Emmanuel Macron à Marseille. Le chef de l'État a annoncé hier l'augmentation des amendes pour les détenteurs de stupéfiants de 200 à 500 euros.
7h05 sur RMC. À 3 mois des élections municipales, les candidats se déclarent tour à tour et puis d'autres font le choix inverse, démissionner.
C'est le cas d'Olivier Bourgeot, élu à Chessy en Seine-et-Marne. Il a décidé de quitter ses fonctions lundi avec ses adjoints en opposition à une décision de justice l'obligeant Alfred Orange à célébrer un mariage.
Le problème pour le maire Olivier Bourgeot, c'est que l'homme qu'il est censé marier est un étranger sous OQTF depuis 3 ans. Impossible dans ces conditions, écrit l'élu dans un communiqué, d'acter la présence sur le territoire d'un individu faisant l'objet d'une obligation de le quitter. Pourtant, le tribunal judiciaire de Meaux, saisi de cette affaire cet été par les fiancés, a justifié après enquête que cet OQTF visant le futur époux était devenu invalide et donc non susceptible d'être exécuté. La justice a ordonné la semaine dernière à la mairie de Chessy de procéder au mariage. Un vœu pieux puisque le maire et ses adjoints ont préféré démissionner pour ne pas avoir à le célébrer.
Le PSG veut terminer l'année en beauté ce soir à Doha, remporter un 6e trophée de la saison. Ce sera face au Brésilien de Flamengo, finale de la Coupe Intercontinentale à vivre sur RMC dès 18h. Sacré meilleur joueur par la FIFA hier, Ousmane Dembélé devrait débuter la rencontre sur le banc. L'attaquant parisien qui devrait être du déplacement des Bleus au Mondial Nord-Américain l'été prochain. Une Coupe du Monde qui va coûter cher aux supporters qui souhaitent encourager l'équipe de France. Entre 6 et 15 000 euros si les Bleus vont en finale. C'est 4 à 5 fois plus cher qu'au Qatar et face à la grogne des fans de foot, Virginie Fulpa, la FIFA a décidé de répondre avec des prix cassés.
C'est le « je vous ai compris » de Gianni Infantino. Le président de la FIFA a entendu la colère des supporters. Il lance un billet à $60 pour ceux qui vont suivre leur équipe tout au long de la Coupe du Monde. Ça fait environ 51 euros la place. Loin des 200 euros minimum pour la phase de poule annoncée jusque-là. Et c'est valable pour les 104 matchs du tournoi. Mais attention, on est loin de la foire aux bonnes affaires. C'est une offre très limitée. Prenons le premier match des Bleus. France-Sénégal à New York le 16 juin. Le stade a une capacité de 82 500 places. Il n'y aura que quelques centaines de places à $60, un peu plus de 600. Ça représente 10% du quota de places attribué à chaque pays qualifié. Qui peut y avoir droit? Ça, c'est chaque fédération de chaque pays qui va décider avec ses associations officielles de supporters. Les associations françaises ne sont pas plus convaincues que ça. Elles parlent d'effet d'annonce. Très peu de gens qui vont pouvoir en bénéficier. Oui, parce que si on fait le calcul, 90% des supporters français n'y auront pas droit à ces places à bas coût. Et en même temps, d'autres soulignent que ça prouve que la politique tarifaire de la FIFA n'est pas gravée dans le marbre. Et ils veulent maintenir la pression pour que les choses bougent encore.
Et pour suivre la Coupe du Monde gratuitement, rendez-vous sur RMC Radio. Officiel de la Coupe du Monde.
C'était le journal de Thibaut Texer. Christophe nous appelle au 32-16. Bonjour Christophe, Dizzy Le Gros, dans l'Aisne. Alors Christophe, je ne peux pas ne pas dire que vous êtes facteur, mais en même temps, vous nous appelez précisément pour parler des petits colis. Christophe, vous êtes consommateur des sites. On vient de redécouvrir en quelque sorte que ces petits colis qui arrivent majoritairement de Chine ne sont quasiment jamais contrôlés et que quand ils sont contrôlés, 0,008% de ces colis sont contrôlés, et bien quand ils sont contrôlés, 9 produits sur 10 ne sont pas aux normes. Vous consommez quoi sur ces sites? Vous achetez quoi, vous?
Alors, c'est vraiment, vraiment des trucs anecdotiques. C'est vraiment des produits qu'on ne va pas trouver en France. Du style, je disais, à la
Au standard,
que le dernier produit que j'ai acheté, en fait, c'est un petit truc tout bête. C'est, vous savez, quand on arrive à la fin du dentifrice, un truc pour enrouler.
Ah ouais.
Et pour pouvoir faire sortir, et bah, c'est le truc là. Malheureusement, je me balade assez souvent, heureusement, je me balade assez souvent dans des enseignes, etc., qui vendent des accessoires comme
et
ça.
Et vous en avez jamais trouvé?
Et j'en espèce ai de truc trouvé. Qui permet de remonter comme une clé pour enrouler le bout du dentifrice.
C'est ça. Alors c'est vraiment anecdotique. J'espère que ça en fait rire plus d'un.
Pas du tout. Alors moi, ça me fait pas rire du tout. Au contraire, je trouve ça génial. Je me dis que ma grand-mère avait ça et qu'en fait, c'est une très bonne façon aussi de justement de permettre d'utiliser le dentifrice jusqu'au bout. Mais Christophe, si vous trouviez ce produit en France, vous seriez très content de l'acheter en France.
J'achèterais à 1000% français. Là-dessus, j'ai aucun problème. Bien évidemment, parce que enfin, après.
Si demain vous devez l'acheter 3 euros de plus parce qu'il y a une taxe dessus, vous l'achèterez quand même.
Oui. Si je le trouve en France et que je vais me déplacer en magasin pour aller le chercher, oui. Au-delà de tout ça, alors maintenant ça a vachement été réduit. C'est vrai que sur les sites chinois, dès qu'on commande, en règle générale, on l'a au bout d'une semaine.
On vous entend mal, malheureusement, Christophe, mais je vous aurais bien interrogé aussi sur le fait que, en tant que facteur, tous ces colis que vous voyez arriver, vous-même vous retrouvez à devoir en distribuer. Vous êtes encore là ou pas, Christophe?
Oui, je suis encore là.
Ouais. Vous les distribuez, vous, ces colis? Vous en avez beaucoup à distribuer?
Je les distribue et c'est, si je dois faire une moyenne, c'est 25% de mes colis.
25%
de mes petits colis, hein.
De petits colis, vous voyez que ça vient de Chine, que ça arrive de là-bas?
Oui.
Ouais, c'est ça. Et donc, ça devient quand même une part importante de la tournée. Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir appelé. Christophe, facteur dans l'Aisne. C'est la première fois, je crois, que je vous accueille à l'antenne. Merci en tout cas d'être venu témoigner. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les petits colis, j'en parlais à l'instant, on y reviendra à 7h40 avec le député en charge du rapport qui viendra développer sur RMC précisément ce qu'il a découvert. L'Europe est une véritable passoire, il nous le dira, rendez-vous à 7h40. Mais d'ici là, vous connaissez l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, en ce moment, ça ne va pas, le bâtiment. Bonjour Jean-Christophe Repond.
Bonjour.
Vous êtes le président de la CAPEB, vous représentez les entreprises du bâtiment et vous vous mobilisez aujourd'hui devant les préfectures un peu partout en France. Vous dénoncez des aides de plus en plus illisibles, 40 000 emplois détruits, l'artisanat est en train de vivre un grand plan social silencieux, enfin pas silencieux dans quelques instants puisque précisément vous serez à mon micro pour pouvoir le dire. Vous êtes vous-même artisan dans le bâtiment ou la construction, appelez-nous au 3216 pour nous dire les difficultés auxquelles vous faites face, il est 7h12.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC. Il y en a marre. Voilà ce que vont crier les artisans aujourd'hui devant les préfectures, un peu partout en France. Bonjour Jean-Christophe Repond.
Bonjour.
Vous êtes le président de la CAPEB. C'est la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. 40 000 emplois détruits en 2 ans. 15 000 entreprises fermées. Le bâtiment est en train de traverser une crise majeure.
Une crise majeure, on interpelle depuis 2 ans les gouvernements. Alors on sait très bien que le temps politique est compliqué entre les remaniements, les changements de ministres, mais ça fait 2 ans qu'on propose aux différents gouvernements des analyses et des propositions qui permettraient de relancer l'activité, notamment sur MaPrimeRénov', la rénovation énergétique, l'accès au marché, et ça fait 2 ans qu'on attend des arbitrages. Donc j'espère aujourd'hui avoir le ministre du Logement pour avoir ces arbitrages.
Et également, on lui demande quoi?
On lui demande en fait que, là j'ai vu que l'ANA avait communiqué sur 4 milliards et quelques de budget pour la rénovation énergétique.
L'Agence nationale de l'habitation.
Pour MaPrimeRénov', donc. Et nous avons en face 50 000 entreprises qui sont dites accréditées, labellisées pour pouvoir accéder à ce marché-là. On comprend bien, pour nous artisans qui représentons 500 000 entreprises, que 50 000 entreprises ne peuvent pas faire le boulot pour massifier la rénovation énergétique.
Donc il faut ouvrir.
Il faut ouvrir, contrôler pour justement enlever la fraude et permettre au maximum d'artisans qui sont dans le territoire, en proximité de leurs clients, d'accéder à ce marché-là et les contrôler sur site.
Avec un problème aussi sur l'emploi, avec un problème sur les commandes, avec des conséquences aussi sur le logement, hein, tout est lié aujourd'hui. L'espèce de flou dans lequel se retrouvent à la fois les normes, MaPrimeRénov', c'est ça d'abord votre ennemi en quelque sorte, c'est le flou?
Le premier ennemi, c'est l'accès au marché. Enfin, nous, on ne veut pas être disqualifiés. En fait, on a la même contrainte pour accéder au marché de MaPrimeRénov', de l'énergie, qu'on soit chez Bouygues ou à la SARL Repond à Toulon. On a les mêmes contraintes. Donc, ça a assez duré de capter un marché par quelques entreprises, 50 000 entreprises. Donc, il faut que le maximum d'artisans accèdent à ce marché-là.
Et en même temps, pardonnez-moi de vous le dire, mais enfin, pendant des années, MaPrimeRénov', ça n'existait pas. Vous viviez autrement. Mm-hmm. Votre secteur ne peut pas uniquement reposer sur ce qui est quand même de l'ordre des aides.
On a posé la question à nos adhérents en disant, est-ce que MaPrimeRénov' doit disparaître et travailler différemment? Comment on le faisait par le passé. On nous a dit, majoritairement nos adhérents, les 5000 adhérents qui ont répondu en disant, c'est une aide décisive quand même pour le particulier de prendre la décision d'accéder au marché. Donc, on redit au ministre, si ma prime Rénov doit rester, et l'artisanat peut être un partenaire, elle doit évoluer, elle doit changer, elle doit permettre le marché, l'accès au marché.
Les difficultés auxquelles vous faites face, il y a Alexandre qui nous appelle pour témoigner. Alexandre, chef d'entreprise BTP dans le Jura, vous êtes à Lons-le-Saunier. Bonjour Alexandre. C'est quoi les difficultés auxquelles vous faites face, vous, au quotidien, Alexandre ?
C'est des difficultés par rapport déjà au marché. On n'arrive pas à avoir de marché. Moi, j'ai une usine de fabrication de charpente, donc on cible tout ce qui est les constructions neuves. Et puis, c'est une catastrophe parce que il n'y a rien qui se construit. Les gens n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir de toute façon. Et puis, les banques demandent de plus en plus d'apports aux gens, 30% de ce que j'entends en ce moment. Donc, ça va être compliqué de relancer la machine. Après, on a des problèmes aussi. On trouve pas de salariés.
Donc, la main d'œuvre.
La main d'œuvre, parce qu'on cherche pas forcément des gens qualifiés sur certains postes. On cherche surtout des gens volontaires et on trouve personne.
Personne. Donc, il y a pas de commande parce que les particuliers ont pas les sous ou n'osent pas se projeter dans la construction.
Les professionnels. Les constructeurs, en ce moment, c'est très compliqué.
Restez avec nous, Alexandre, sur ce point de la main-d'œuvre.
On a un paradoxe. On est toujours un métier en tension, mais on a quand même détruit 28 000 emplois l'année dernière et on va détruire 40 000 emplois en 2 ans. Donc, j'entends ce que dit notre collègue artisan et c'est la vérité. On a des difficultés de recrutement. Mais on devrait, à l'heure actuelle, être en activité surmultipliée sur la rénovation énergétique et la mise à niveau des installations. Et on a un défaut de confiance. Donc, il faut que le gouvernement redonne la confiance au marché en permettant l'accès au marché des artisans. Les artisans doivent accéder à ce marché-là. Nous, on ne peut plus tolérer qu'on nous explique qu'on va arbitrer, que finalement on garde les mêmes entreprises, en fait que le Rotary de l'énergie doit être capté par quelques-uns.
Une sorte de petit club. Alexandre, sur la question de la trésorerie, vous vous en sortez ?
Compliqué. Les gens, au lieu de payer à 45, ça paye à 60 ou à 70 en ce moment.
Donc, c'est ça.
Ce qui est paradoxal, c'est que les gens épargnent en même temps. On a l'épargne qui est à plus de 19% et on a des difficultés de paiement. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un climat de confiance qu'on doit restituer entre le gouvernement, les artisans et les particuliers pour réinjecter de l'argent dans la rénovation du bâtiment.
Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail et des Solidarités, sera mon invité tout à l'heure à 8h30. Est-ce que vous attendez quelque chose aujourd'hui, justement, des aides, des primes et aussi de la relance de l'emploi?
Nous, on attend vraiment une attention toute particulière. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'activité. C'est pas d'aide particulièrement. Les aides, elles sont pour les particuliers, pour prendre la décision de rénovation. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une écoute toute particulière sur la TPE, sur l'artisanat, qui souffre majoritairement en France et qui n'est pas écouté. Donc, il faut des arbitrages forts pour redire à nos collègues artisans, comme notre collègue du Jura, oui, on est écouté, oui, il y a des avantages, oui, il y a des avancées, oui, votre parole compte. Donc, j'invite, moi, le maximum d'artisans à rejoindre la CAPEB pour faire porter la voix auprès des parlementaires et des gouvernements. Nous, on a 3 ministres qui doivent nous entendre. Monsieur Farandou, Monsieur Papin, Monsieur Lefebvre pour la rénovation, pour la partie REF, et puis également Jean Brun pour le logement. Que j'espère avoir dans la journée.
Pour le logement, et vous espérez effectivement qu'il vous répondra aujourd'hui. Vous nous tenez au courant.
Bien
Alexandre,
sûr.
Merci de votre témoignage depuis le Jura. Et Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, qui représente donc les entreprises du bâtiment. Il est 7h20. Arthur Chevalier est entré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, Donald Trump a annoncé vouloir construire un arc de triomphe à Washington pour l'an prochain.
Oui, le président américain veut un arc de triomphe encore plus beau et plus grand que le nôtre. Hein, sauf que l'histoire ne s'achète pas. Elle se construit lentement. Nous, on a mis 30 ans à le faire.
Hein. Et vous allez nous le raconter dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22. Arthur Chevalier va remonter le temps pour nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Donald Trump veut faire construire un arc de triomphe à Washington. Il voudrait qu'il soit sorti de terre d'ici l'an prochain pour la date anniversaire des 250 ans de la création des États-Unis.
Oui, et Donald Trump ne s'est d'ailleurs pas arrêté là puisqu'il a ajouté que son arc de triomphe écrasera, ce sont ses termes, celui de Paris, hein, sur tous les plans, comme d'habitude. Un projet faramineux, l'édifice devrait avoir une superficie de 8000 mètres carrés pour un budget total de 350 millions de dollars.
Enfin, 2026, moins d'un an, quand même très court pour sortir un arc de triomphe.
Ah oui, je vous le confirme, c'est très très court. Hein. Nous, on a mis 30 ans pour construire le nôtre, hein. Alors bien sûr, c'était pas la même époque. L'Arc de Triomphe, c'était une idée de Napoléon Bonaparte, bien sûr.
Notre chouchou.
Il voulait un monument à la gloire de ses soldats, Donc en 1806, les travaux commencent.
Comment ça va se passer?
Alors ça va se passer plutôt mal, puisque tout prenait du retard, ça coûtait très cher, sauf qu'évidemment, Napoléon n'attend pas. Pour son deuxième mariage en 1810, il veut passer sous l'arche avec sa nouvelle épouse, sauf que rien n'est prêt, l'édifice fait à peine 12 mètres de haut, alors comment faire? Eh bien on a une idée, on construit un échafaudage tout autour de la structure et on le recouvre d'une bâche sur laquelle on dessine l'arc de triomphe tel qu'il était sur les plans. Donc en réalité, on a fait semblant, c'était un trompe-l'œil.
Extraordinaire ce décor de carton-pâte.
Exactement.
Quand est-ce qu'on achève vraiment la construction?
Alors, 21 ans après le départ de Napoléon, en 1836, on achève la construction, donc c'était beau, mais c'était long, hein. Ça devient le symbole de notre puissance militaire. Après la Première Guerre mondiale en 1919, les soldats français défileront pour célébrer la victoire sous l'Arc de Triomphe. Et à cette occasion, on avait demandé aux aviateurs de défiler, eux aussi, mais à pied, ce qu'ils ont vécu comme une humiliation, puisque symboliquement, ils voulaient avoir le droit de voler avec leurs avions pendant le défilé.
Ils vont pas se laisser faire d'ailleurs.
Non, ils vont pas se laisser faire, puisqu'en signe de protestation, un aviateur qui s'appelait Charles Godefroy prend son avion, décolle de Villacoublay direction Paris, et à l'aube, il entre dans la capitale. Il fait deux fois le tour de l'Arc de Triomphe et là, il passe carrément sous l'arche avec son avion de travers. C'était la toute première fois que ça se produisait. Je précise qu'il y a une vidéo de cette performance en 1919.
Extraordinaire. Et bien sûr, il y a bien sûr la tombe du soldat inconnu.
Et oui, en 1920, on place le corps d'un soldat inconnu, c'est-à-dire un soldat dont on ne connaît pas l'identité, sous l'Arc de Triomphe. Ça devient le symbole des morts de la Première Guerre mondiale. Et en 1923, on ajoute la flamme du soldat inconnu. Cette flamme, elle est ravivée tous les soirs à 18h30. Depuis, elle ne s'est jamais éteinte, y compris d'ailleurs pendant l'occupation allemande.
Donc l'Arc de Triomphe, c'est beaucoup plus qu'un monument.
Exactement. Et d'ailleurs, pendant sa déclaration, Donald Trump en a profité pour se moquer de la France en disant que la seule chose qu'on avait, c'était notre histoire. Sauf qu'en réalité, c'est aussi la sienne, puisque parmi les noms gravés sur l'Arc de Triomphe, il y a celui de Rochambeau et de Lafayette, des généraux français qui ont combattu en Amérique pour l'indépendance des États-Unis.
Merci Arthur Chevalier et ses conseils donc à Donald Trump. Je vous recommande également un film merveilleux où il y a cette tentative de passer en avion sous l'Arc de Triomphe. C'est Les Aventuriers, 1967, avec Alain Delon et Lino Ventura. Je pense que dès ce soir, vous pouvez le voir, c'est okay. Magnifique. Il est
7h25. Il a des devoirs
de la course. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et dans le face-à-face, tout à l'heure, Arnaud, je reçois le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Mais oui.
Bah oui, puisqu'avant d'être ministre du Travail, il était patron de la SNCF, il a même fait toute sa carrière à la SNCF. Autant vous le dire, il découvre le monde du travail sur le tard. Quoi ? Vous voulez dire que les salariés sont obligés de venir travailler 5 jours par semaine ? Mais c'est inhumain ! Depuis 2017, d'ailleurs, le prix moyen des trains Ouigo a augmenté de 73%. En fait, prendre le train, c'est devenu bling-bling. Dans les années 80, tu disais, bon, je vais à Monaco avec ma Porsche, les gens comprenaient. En 2025, tu dis, moi, je me suis payé un petit Paris-Poitiers en deuxième classe en Ouigo. Wow, wow, wow! Ça va, Bill Gates? On se fait pas chier. Alors, Jean-Pierre Farandou, va-t-il augmenter le SMIC de 73% pour suivre? On sait pas. D'après une étude sortie cette semaine, les Français travaillent en moyenne moins que les Allemands. Après, c'est facile pour les Allemands. Enfin, je veux dire, quand t'es Allemand, c'est bien de rester au travail, t'as pas envie de rentrer chez toi. C'est pour avoir Gudrun qui t'attend avec un plat de saucisse devant une rediff de Derrick, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Le gouvernement, lui, envoie cette semaine 4000 CV tests pour des offres d'emploi afin de mesurer les discriminations. Et c'est vrai qu'il y a de la discrimination à l'embauche. Essayez, tiens, Apolline, essayez de devenir députée LFiste si vous avez fait des études. Difficile. Moi, je pense que parmi les 4000 faux CV, il y a certains ministres qui vont glisser les leurs. Ouais. Vous voyez, des Monique Barbu, des Laurent Panifou qui vont vouloir se barrer de ce bourbier. Même Jean-Pierre Farandou, il va faire Farandou, Jean-Pierre, permis B, j'aime les trains, le dialogue social et les trains. Pitié, rendez-moi mon poste à la SNCF, c'est l'enfer ici. Et puis alors, ce chiffre alarmant pour nos retraites, les naissances s'effondrent, les courbes se croisent, ça va pas du tout. J'ai lu un chiffre avant de venir. Parmi les Français ayant déjà eu un rapport sexuel dans leur vie, un Français sur quatre n'a rien refait depuis un an. C'est pas comme ça qu'on aura des enfants, je veux dire.
C'est vrai.
Autour de moi, vous êtes quatre. Il y en a un qui ne se dévoue pas pour faire des bébés. Un Français sur quatre, ce sont eux qui paieront nos pensions. Faut se motiver. Nos voisins de chez BFM Business, Manu Le Chypre et Edwige Chevrillon, ils n'ont pas ce problème.
J'ai peur. Oh, Emmanuel, tu as mis des pétales de rose sur le lit et tu as sorti la housse de couette offerte avec l'abonnement au nouvel économiste. Coquinou, que vas-tu réserver?
Oui, Moumoune, ce soir, Je te propose un rapport.
Oh,
c'est un rapport de la Cour des comptes sur le budget 2026.
Mon Helmut Kohl en sucre, tu es fou.
Et ensuite un rapport de Jérôme Fourquet sur le marché du travail en zone rurale.
Love to love you baby. Oh vas-y Emmanuel, arrache mes bas de contention.
Voilà, ça en fait deux qui bossent pour notre avenir.
Il y en a un qui bosse aussi pour notre avenir, vous le verrez tout à l'heure. C'est Louis Sarkozy. Il consacre sa chronique à 7h50, voix de droite ce matin. Cette question, sommes-nous en train de disparaître et comment faire pour repeupler la France? Ça dépote, rendez-vous donc à 7h50. Mais pour l'heure, il est 7h28 et on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. A tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Frapper les consommateurs de drogue au portefeuille. Emmanuel Macron annonce que l'amende pour consommation va passer de 200 à 500 euros. Une colère grandissante et de nouveaux blocages. Les agriculteurs pas convaincus par l'annonce d'une accélération de la vaccination des bovins. L'armée mobilisée contre la dermatose nodulaire. Et puis un procès requis contre Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni dans le dossier de la rétractation de Ziad Takieddine.
La lutte contre le narcotrafic au cœur des débats à l'Assemblée aujourd'hui.
Les députés vont discuter de certaines priorités à financer. Le gouvernement veut mener une bataille sans merci. Emmanuel Macron, depuis Marseille, parle même d'une guerre. Le chef de l'État qui s'en prend aux consommateurs, ça n'est pas festif de se droguer, dit-il. Il faut taper au portefeuille. L'amende forfaitaire passera de 200 à 500 euros pour les consommateurs de drogue. Consommateurs qui disent déjà que ça ne va pas changer grand-chose, Lou Garnier.
La drogue fait partie du quotidien d'Abel. Et ce n'est pas l'augmentation de l'amende qui va le dissuader. Lui ne se fait jamais contrôler.
Je suis consommateur. Moi, je fais ça chez moi. En général, seul. Du coup, ça ne portera pas préjudice.
À ses côtés, Tassena Akies, son premier joint. Elle l'a fumé au lycée. Aujourd'hui, âgée de 26 ans, elle a essayé de se sevrer plusieurs fois, mais sans succès. Elle regrette une mesure qu'elle qualifie de répressive et appelle à plus de prévention.
Faire des interventions dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, dans l'expliquer que c'est pas bien, qu'il ne faut pas le faire. Mettre de l'argent justement dans la prévention plutôt que soutirer de l'argent aux gens qui consomment, ça va mener nulle part.
Pour d'autres, comme Yasmine, l'amende reste un moyen de dissuader les consommateurs, mais pour elle, il faut frapper encore plus fort.
On peut mettre à l'amende, oui, il faut quand même sanctionner, mais il y a d'autres moyens de sanctionner, comme par exemple en Corée du Sud, là-bas, si on prend même 1 milligramme de drogue, c'est directement à la prison. Ils n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas de pitié.
Emmanuel Macron a aussi annoncé le renforcement des moyens afin d'améliorer le taux de recouvrement des amendes qu'il ne juge pas satisfaisant.
L'armée mobilisée pour accélérer la vaccination des bovins contre la dermatose nodulaire. 750 000 bovins à vacciner dans les semaines à venir grâce à des vétérinaires militaires, promet la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, annonce insuffisante pour éteindre la colère grandissante des agriculteurs mobilisés depuis 8 jours contre l'abattage de leurs troupeaux. De nouveaux points de blocage et des barrages qui vont se mettre en place dans la matinée. C'est le cas à Voreppe en Isère où se rendra Maud Chara, éleveuse et membre de la Confédération Paysanne. Les dernières annonces ne l'ont pas convaincue.
Ce qu'elle a proposé, c'est pas suffisant. Elle propose d'y étendre sur une zone du sud-ouest, mais nous, on demande à ce que ce soit élargi à tout le territoire français, que tous les éleveurs puissent en bénéficier. Nous, on se met en place à 9h30 à Voreppe. C'est une filtration du trafic pour expliquer aux automobilistes pourquoi on est là et quelles sont nos revendications. Ici aussi, en Isère, on est solidaires des autres et qu'on est sur les revendications nationales. Bien sûr que c'est important de montrer qu'on est là et qu'on avisera au fur et à mesure, mais là on est motivé pour y aller.
Un propos recueilli ce matin par Cassandre Brault pour RMC. L'assaillant de Sydney, inculpé pour terrorisme et 15 chefs d'accusation de meurtre après cette attaque sur une plage de la ville australienne. 15 personnes tuées, rassemblées pour la fête juive de Hanouka. C'était dimanche dernier. Les premières obsèques ont commencé à se dérouler cette nuit. Le budget de la Sécu, définitivement adopté hier avec la suspension de la réforme des retraites. C'est le premier texte budgétaire adopté sans passage en force, sans article 49.3 depuis 2022 et l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. En pleine promotion de son livre, Nicolas Sarkozy rattrapé une nouvelle fois par la justice alors que son éditeur s'est félicité hier d'avoir vendu près de 100 000 exemplaires en une semaine de son journal d'un prisonnier. Et Guillaume Biet, chef du service police-justice d'RMC, un nouveau procès est donc requis contre Nicolas Sarkozy mais aussi contre son épouse.
Eh oui, le parquet national financier requiert un procès pour le couple Sarkozy. C'est une première, soupçonnée d'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée. C'est la fameuse histoire de l'opération baptisée Sauver Sarko en novembre 2020. Une grossière tentative de manipuler la justice à travers les soudaines rétractations de l'homme d'affaires Ziad Takieddine, dont la fausse déclaration en vidéo était censée disculper l'ancien président dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne. Une opération d'enfumage qui aurait coûté plus de 600 000 euros d'après l'enquête et dans laquelle Carla Bruni Sarkozy aurait servi d'intermédiaire aux côtés de son amie Mimi Marchand, la reine de la presse People, elle aussi poursuivie, tout comme 8 autres personnes. Alors c'est maintenant au juge d'instruction de décider s'il renvoie tous ses protagonistes devant le tribunal.
Guillaume Biet, chef du service police-justice d'RMC. Kylian Mbappé remporte sa bataille judiciaire contre le Paris Saint-Germain, le club parisien condamné au prud'homme pour n'avoir pas versé des primes, des salaires et des congés aux joueurs. Il doit désormais lui verser 61 millions d'euros, Valentin Jamin.
Oui, c'est une vraie victoire pour Kylian Mbappé qui va récupérer 61 millions d'euros correspondant aux 3 mois de salaire, primes et congés payés que Paris ne lui a pas réglés entre avril et juin 2024. Ses avocates Delphine Verheyden et Frédéric Cassereau sont satisfaites.
C'est assez simple en fait ce dossier. C'est un salarié qui a honoré son contrat jusqu'à son terme et qui demandait uniquement à recevoir ses salaires et primes inscrits dans son contrat de travail.
C'est vraiment l'idée qu'il y a un principe fondamental. Lorsqu'on exécute un travail, on est payé pour ça.
Succès, même si le clan Mbappé réclamait en tout 263 millions d'euros. Le PSG, qui pour compenser notamment le départ libre du joueur en 2024, avait lui demandé la somme de 440 millions d'euros, est débouté de toutes ses demandes.
C'est la troisième fois que c'est jugé. Les deux précédentes, le club indiquait qu'il ne voulait pas payer car il attendait une décision au prud'homme. Elle est là.
Et donc le foot n'est pas une zone de non-droit.
Le PSG doit aussi publier pendant un mois sur la première page de son site internet l'intégralité du jugement. Le club dit prendre acte de la décision et peut encore faire appel.
Et puis pas de trophée pour Victor Wembanyama, le basketteur français et son équipe des Spurs se sont inclinés en finale de la Coupe NBA, défaite contre les New York Knicks, 124 à 113.
Et puis le quintet, c'est à Vincennes, 13h55.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 9, Hiron du Gers. L'outsider, c'est le numéro 4, Ipalio, le 9 et le 4.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h37 sur RMC. Vous en parliez, Clara, dans votre journal Les Agriculteurs. Pas franchement convaincus par les annonces de la ministre de l'Agriculture. On est en direct avec Christian Convert. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes mobilisé avec les agriculteurs. Vous êtes l'ancien secrétaire général de la coordination rurale. Oui. 750 000 bovins vaccinés dans les semaines qui viennent. Voilà l'annonce à la fois de la ministre de l'Agriculture, mais aussi du Premier ministre. Les vétérinaires militaires qui seront même mobilisés. Est-ce que c'est quand même un signal que vous êtes entendu?
C'est un signal, oui. C'est maintenant qu'il fallait prendre la décision. La décision, elle a tardé un peu d'élargir cette vaccination. Mmh. Elle reste encore en réflexion maintenant si elle va être plus large sur la France pour le printemps. Parce que là, pour l'instant, effectivement, on se cantonne à une zone. Effectivement, c'est beaucoup plus cohérent puisqu'on élargit. Mais on va dire le problème, il reste pas total, mais il reste quand même en partie non réglé. Donc il a fallu quand même que ce soit le Premier ministre qui s'occupe du dossier pour en arriver là. Il reste maintenant, bien sûr, tous les points de tension là que vous avez évoqués. Hein. De toute façon, l'abattage total tel qu'il est pratiqué là aujourd'hui fait beaucoup trop de dégâts.
Cette stratégie, effectivement, la ministre, elle continue à dire qu'on ne dévie pas de cette stratégie, c'est-à-dire l'abattage du troupeau entier lorsqu'il y a un cas de dermatose nodulaire. Vous êtes, me semble-t-il, en Savoie, ça a marché cette stratégie là-bas?
Oui, enfin, ça a marché. Écoutez, ça a marché sur le terrain là, mais ça n'a pas empêché la maladie de se déplacer. C'est quand même ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, il reste quand même maintenant toute l'arrivée du printemps. Vous savez très bien que quand on a un vaccin, en principe, quelques temps après, voire une année maximum, on doit faire un rappel. Donc
cette question-là, comme la grippe, quoi.
Cette question-là reste posée, mais nous, ce qui nous va pas, c'est l'histoire de l'abattage total et qu'on ne fasse pas les analyses sur les troupeaux. Pour l'instant, on constate une bête malade, on tue tout le troupeau, d'où depuis le premier jour, on demande à ce que les analyses soient en fait quasiment systématiques avant de mettre les troupeaux à mort, à vrai dire, pour qu'on arrive à avoir un petit peu de recul et qu'on sache effectivement le nombre d'animaux malades, parce que c'est trop facile de nous dire dès qu'il y a un cas, il y a potentiellement des autres animaux qui peuvent être porteurs. Ça, c'est pas suffisant. Évidemment, bon, la ministre, elle a ses conseillers, toujours les mêmes. Tout le monde n'est pas du même avis scientifique au niveau européen.
Au niveau européen, vous avez parfaitement raison. Il y a aussi d'ailleurs la question du Mercosur demain, mais enfin c'est une autre question. Immédiatement, votre colère, elle est surtout sur cette question. Elle a été en tout cas, chauffée par cette question de la dermatose. Est-ce que Christian Convert, vous vous dites que ça peut se calmer ou est-ce que vous ressentez autour de vous une colère qui n'est pas prête de se calmer?
Non, mais on peut dire que ça va se calmer d'ici la fin de la semaine, si vous voyez comment ça se passe, hein, notamment sur le Mercosur, parce qu'aujourd'hui, c'est tous les agriculteurs qui sont à cran. Après, l'histoire de la DNC, on va dire que suivant les mesures qui sont prises, si ça évolue encore un petit peu dans le sens qui est demandé par l'ensemble des chambres d'agriculture du Sud-Ouest, effectivement, ça peut être un signe. Si on en est là, s'il n'y a pas de nouveaux cas, on va dire que ça va se calmer, d'autant plus qu'on est en hiver. Mais par contre, si jamais il advenait que ça ressorte un cas encore dans un autre département, effectivement, là, ça va pas se calmer. Là, hein. Ça va empirer. Hein.
Et évidemment, on vous rappellera régulièrement pour que vous nous en disiez plus. Merci en tout cas, Christian Convert, ce matin en direct, ancien secrétaire général de la coordination rurale. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et vous le savez, on vous offre des cadeaux, on vous fait passer un fabuleux Noël sur RMC à gagner toute la journée, mais en particulier dans moins d'une heure maintenant dans Apolline Matin, grâce à Micromagnazing. Il y a des PS5, des Nintendo Switch 2. On joue, on ajoute d'ailleurs la Miam Box spéciale Noël. C'est celle-là qui me fait rêver, moi, je vous avoue. Une boîte mystère avec une sélection de bonbons spéciaux pour Noël. Pour jouer, vous envoyez tout de suite Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. Et le gagnant sera donc en direct avec nous à 8h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et les réactions ce matin, on entendait Alexandre tout à l'heure sur la question du bâtiment, il y a la colère agricole, et puis il y a les petits colis, Mathieu.
Et oui, ces petits colis en provenance de Chine, bien souvent, il y en a 5 fois plus en 3 ans, moins de 0,01% sont contrôlés, dans 90% des cas, ils ne sont pas aux normes. Thierry nous écrit, cette fixette sur les produits en provenance de Chine me fait sourire, 95% à mon sens des produits achetés sont les mêmes que ceux qu'on trouve à 3 ou 4 fois le prix en grande surface. Ici, ça fait des années qu'on commande et aucun souci. Le dernier, litière pour chat automatique, 159€ contre 600 en magasin. Pierre nous écrit des Yvelines, je voulais témoigner de mon expérience. Je commande en Chine, mais ça m'arrive chez Temu pour des filtres à air pour voitures anciennes ou des rondelles ou vis décoratives que je paye entre 5 et 10€. Ici en France, c'est 50€. Et puis cet autre message qui nous dit que c'est un symptôme du délitement de l'État français. C'est ce que pense Dominique. Les contrôles par les douanes des petits colis n'ont pas été faits dès le départ. Et maintenant, il est trop tard. Voilà ce que dit Dominique.
Et vous nous le disiez effectivement il y a un instant, cette question des petits colis. Antoine Vermorel-Marquez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député, c'est vous qui remettez aujourd'hui ce rapport qui effectivement donne le vertige. Honnêtement, quand on découvre que seuls 0,01% des petits colis sont contrôlés et que quand ils sont contrôlés, 9 sur 10 ne respectent pas les normes. Merci d'avoir choisi RMC pour nous dévoiler le contenu de ce rapport. Il est édifiant et vous nous le dites dans un instant. 7h42.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44. Excellent réveil à tous sur RMC et sur RMC Story. L'Europe est une passoire qui laisse passer des millions de colis chinois non conformes. C'est la conclusion de votre rapport que vous rendez aujourd'hui. On en avait l'intuition, mais désormais vous mettez des chiffres là-dessus. Antoine Vermorel-Marquez, bonjour.
Bonjour.
Député Les Républicains de la Loire, merci d'avoir choisi RMC pour dévoiler ce rapport ce matin. 200 000 des petits colis importés d'Asie déferlent chaque jour en France et seuls 0,008% sont contrôlés. On s'est fait avoir comme des bleus.
On a une vraie passoire. On contrôle 82 articles qu'on en reçoit 1 million, c'est un tsunami, et les douanes sont complètement débordées. Et quand on contrôle, 95% des produits qui rentrent sont dangereux pour notre santé et celle de nos enfants. Et donc c'est d'où l'intérêt de ce rapport, de mettre des propositions sur la table pour dire stop, ça suffit à l'impunité, il faut des sanctions, des contrôles et aussi davantage de liberté pour nos propres producteurs.
Sauf qu'on a laissé rentrer tout ça. Et maintenant qu'on se réveille, c'est comme si on essayait de vider la mer avec une petite cuillère.
Ben oui, mais il faut faire ce que les États-Unis ont fait, c'est-à-dire mettre fin à la stratégie du petit colis, revenir à l'importation par conteneur qui nous permet de contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut vraiment comprendre que quand les Chinois nous envoient des petits colis, il n'y a pas la possibilité d'avoir de contrôle. Pourquoi ? Parce que la différence entre un gros conteneur, vous avez 2000 jouets, vous en contrôlez un, vous renvoyez 1999 les autres, quand un petit colis, vous avez 2000 petits colis. Donc vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est pour ça qu'on a une déferlante de petits colis chez nous, et c'est pour ça qu'on a autant de concurrence déloyale vis-à-vis de nos producteurs français.
Extrêmement intéressant la manière dont vous le présentez, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette question du conteneur versus la petite boîte, le tout petit colis et qu'on doit ouvrir chacun évidemment séparément. Qu'est-ce que vous trouvez dans ces colis lorsqu'effectivement il y a contrôle ?
Alors lorsqu'il y a contrôle, par exemple sur des jouets pour enfants, on est à 10 jours de Noël, on trouve des jouets qui contiennent des vis, contrairement à de la colle où l'enfant s'il le décolle il peut avaler la vis et donc s'étouffer avec. On trouve des vêtements qui ont des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent nous rendre stériles ou qui peuvent nous donner de l'eczéma. On trouve aussi des batteries électriques ou même des machines-outils. Il n'y a pas que les petits colis qui sont non conformes et qui sont inefficaces et de mauvaise qualité. Et donc tout ça fait que on a aujourd'hui de la concurrence déloyale qui détruisent, au-delà de notre santé, qui détruisent nos emplois. Parce que évidemment, quand vous ne respectez pas les normes, que vous produisez des produits à bas coût de mauvaise qualité, bah forcément vous êtes moins cher que ceux qui respectent les règles. Et c'est ça qui est aujourd'hui le vrai scandale en France.
Vous parliez de nos emplois. Ces colis ont des conséquences très concrètes sur notre économie. Hein. Encore une nouvelle marque française dont on apprend qu'elle est en redressement désormais, la marque de vêtements IKKS. 350 magasins qui sont menacés de fermeture. C'est pour vous une conséquence directe ?
Mais c'est une conséquence directe. Et ce qu'on a vécu dans les années 80 avec la désindustrialisation du pays, aujourd'hui on est en train de le vivre avec la décommercialisation du pays. Chaque jour en France, vous avez deux boutiques de vêtements qui ferment. Chaque jour, vous avez des milliers d'emplois qui sont perdus à cause de cette concurrence déloyale. Moi, qu'un produit qui vienne de Chine, qui respecte nos normes, c'est pas un problème.
Oui, mais en fait, vous n'êtes pas contre le produit en lui-même.
Je suis pas contre le libre-échange.
Mais il faut que les normes soient les mêmes.
Les normes doivent être les mêmes. Aujourd'hui, on a eu deux mouvements contraires. On a ouvert nos frontières sans aucun contrôle, une vraie passoire, un parapluie troué, et de l'autre côté, on a rajouté des normes à nos producteurs français. On emmerde chaque jour nos entreprises françaises avec des normes supplémentaires qui coûtent très cher, qui les empêchent de produire, et de l'autre côté, on laisse les entreprises chinoises, asiatiques ou étrangères rentrer tout et n'importe quoi sur nos frontières. Et là, vous avez le résultat, le banco gagnant de la faillite française et de la faillite de la production française, parce que d'un côté, on ne peut plus produire, et de l'autre, on laisse rentrer ce qui est interdit de produire en France.
Vous avez résumé en une phrase, effectivement, un malaise français grandissant que l'on ressent à peu près à tous les étages. Tout à l'heure, j'avais le patron des entreprises du bâtiment qui décrivait à peu près les mêmes questions, comme si nous nous étions nous-mêmes mis les bâtons dans les roues. La question, elle est effectivement au niveau européen. Maintenant, on fait quoi ? Est-ce que l'Europe, au-delà du gouvernement français, au-delà du rapport que vous, députés, vous venez de faire, quelles sont les mesures qui seront prises et est-ce qu'ils ont conscience de l'urgence ?
Oui, ils ont conscience de l'urgence. Nous, dans notre rapport, il y a trois types de propositions. La première, c'est des sanctions. La deuxième, c'est des contrôles. Et la troisième, c'est de laisser nos entreprises françaises tranquilles. Des sanctions, pourquoi ? On a vu sur Chine, par exemple, ou d'autres plateformes, il y avait des poupées pédopornographiques et des armes. Aujourd'hui, s'ils retirent ces produits, il n'y a pas de sanctions. Et pourtant, ils se sont fait du bénéfice sur le dos de nos enfants et avec la complicité des criminels. Donc, il faut des sanctions dissuasives. La deuxième, c'est que quand un produit est frauduleux, aujourd'hui, le vrai scandale, c'est que celui qui l'importe n'est pas responsable de la destruction. C'est-à-dire que c'est vous, Apolline de Malherbe, c'est moi, le contribuable français, ceux qui nous écoutent, qui payent la destruction des produits qui sont frauduleux. Donc le fraudeur peut envoyer tout et n'importe quoi, et en plus il n'a aucune conséquence. La deuxième grande idée forte, c'est des contrôles supplémentaires. Qu'est-ce que font les Chinois et les Américains ? Ils nous regardent à la loupe. Et quand on veut exporter chez eux, ils nous envoient des inspecteurs chinois et américains dans nos usines pour certifier avant que les produits arrivent chez eux qui sont conformes. Et nous, on fait pas ça.
Faudrait qu'on fasse pareil,
il faut faire la même chose. Il faut envoyer des inspecteurs en Chine dans les usines chinoises pour que les produits ne viennent pas chez nous s'ils sont frauduleux. Et la troisième chose, c'est que comme 50% de notre empreinte carbone vient de l'étranger, il faut que 50% des contrôles, de l'inspection du travail, de l'OFB, des DREAL, de toutes les administrations d'État qui sont sur le dos de nos entreprises, portent sur les entreprises étrangères. Et on fait ça à moyen constant, c'est-à-dire qu'on libère nos entreprises.
Ça desserrerait un peu les taux sur nos entreprises.
Ah bah, je peux vous garantir que les chefs d'entreprise, moi chez moi, j'ai un chef d'entreprise qui a encore une teinturie, l'une des dernières en France, qui a des contrôles matin, midi et soir de la DREAL. Et on laisse rentrer des t-shirts, des vêtements que l'on porte tous avec des PFAS, avec des phtalates qui viennent de Chine où il n'y a aucun contrôle. Mais il faut que les autorités françaises maintenant aient conscience de ce problème-là. Ça se fait par circulaire. C'est le Premier ministre qui peut prendre cette décision-là, de dire maintenant, toutes les autorités françaises ont une compétence sur les produits importés pour qu'on mette fin à ce scandale de la fraude sur les importations.
Merci Antoine Vermorel-Marquez, donc député Les Républicains de la Loire, auteur de ce rapport sur les petits colis asiatiques. Merci d'avoir vraiment développé ce rapport. à notre micro ce matin. 7h50, Louis Sarkozy arrive. La France, Louis, ne fait plus de bébés. Vous êtes la voix de droite d'RMC et cette situation, elle vous inquiète. Mais vous avez des solutions.
Oui, Apolline, la France meurt à petit feu. Alors, Française, Français, faites l'amour et faites des enfants.
J'avoue que je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire non. 7h50, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy, qui a lancé presque ce slogan, faites l'amour, faites des enfants. Mais avant cela, le bonus, Mathieu, et avec la pub Intermarché qui continue d'émouvoir le monde.
Et le premier ému, c'est Claude François Junior, qui voit la chanson de son père ressurgir en tête des classements. Mes enfants mesurent vraiment à quel point leur grand-père est encore présent, dit-il. Il raconte même avoir versé une petite larme en découvrant cette pub devenue virale. L'histoire de ce loup qui cuisine des légumes pour se faire des amis dans la forêt et passer Noël avec eux. On atteint le milliard de vues, toutes plateformes confondues. Et parmi ces vues, un auteur qui affirme reconnaître son livre dans la pub. Thierry Dedieu, écrivain et illustrateur ariégeois, qui a publié Un Noël pour le loup en 2017, l'histoire d'un loup solitaire qui tente de se racheter lors d'un repas de Noël. Le loup rejeté tente de prouver sa bienveillance en préparant un repas sans faire appel aux animaux de la forêt. Donc là, s'il n'y a pas de plagiat, je ne vois pas ce que c'est que le plagiat. Intermarché conteste toute copie et regrette que le succès de cette pub se fasse aujourd'hui l'objet d'une tentative d'appropriation individuelle.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h53, Louis Sarkozy, la voix de droite. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Vous venez de dire, faisons l'amour. Bah oui, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de décès que de naissances. Alors justement, comment on fait pour relancer la natalité dans ce pays ?
Ah, c'est sans doute le sujet le plus grave auquel la France fait face aujourd'hui, plus grave que la dette, plus grave que l'insécurité, plus grave que la réforme des retraites, parce que tout le reste en dépend. La France est en train de disparaître.
Bon, disparaître, le mot est un peu fort quand même.
Il est pourtant factuel. En 2024, la France a enregistré, chère Apolline, environ 600 000 naissances. C'est 22% de moins qu'en 2010. Notre taux de fécondité est tombé à 1,6 enfants par femme, un des plus bas niveaux depuis la Première Guerre mondiale. Le seuil de renouvellement des générations, c'est 2,1. Nous en sommes très loin.
Alors, comme on vit plus longtemps, c'est peut-être pas si dramatique.
Mais justement, l'âge médian en France approche désormais les 48 ans. Dans 15 ans, un Français sur quatre aura plus que 65 ans. En 1950, il y avait 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un 1,7. Demain, ça sera encore moins. Aucun système social, aucun modèle économique ne survit à ça.
Donc c'est pas juste un sujet familial ou moral.
Oh non, c'est un sujet économique, social, stratégique, civilisationnel. Moins d'enfants, c'est moins de travailleurs, moins d'innovation, moins de croissance, moins de soldats, moins d'enseignants, moins de soignants. Moins d'enfants, Apolline, c'est moins d'avenir.
Alors, pourtant, on entend aussi une partie des Français qui disent que moins d'enfants dans le monde, ce serait peut-être une bonne nouvelle.
Alors ça, c'est une folie, une idée profondément réactionnaire qui se déguise en modernité. L'antinatalisme est génocidaire, ignoble, inacceptable. L'histoire est claire, les sociétés qui cessent de faire des enfants ne deviennent pas plus vertueuses. Elles deviennent au contraire plus faibles, plus dépendantes, plus anxieuses. Visons la vie et pas la mort.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il suffit pas de dire « faites des bébés ».
Ah, évidemment que non, tout ce qui peut être fait doit être fait sans tabou, fiscalement, économiquement, socialement. Le réarmement démographique passe d'abord par la fécondité. L'économiste Maxime Spahy le démontre très bien dans son ouvrage « Le grand vieillissement ». La vérité, c'est que la baisse que nous constatons aujourd'hui tient en grande partie à un fait simple. Les femmes ont des enfants trop tard. Nous avons progressivement stigmatisé le jeune couple marié à 22 ans qui décide de fonder une famille. Ces couples doivent au contraire être encouragés. Comment ? Plus vous avez d'enfants, moins vous payez d'impôts. Les charges qui pèsent sur le travail des parents doivent être allégées, en particulier pour les jeunes actifs. L'épargne familiale doit être sanctuarisée avec des dispositifs de capitalisation aussi dédiés aux enfants. Le marché du logement doit être libéré pour faire baisser les prix et permettre aux familles d'accéder à des structures et des surfaces adaptées. Et notre politique du logement social doit aussi favoriser les familles. Mais le vrai changement, Apolline, il est culturel. La France doit redevenir une cour de récréation, car sans un changement profond du regard porté sur la famille et sans incitation claire et assumée, aucune politique démographique ne pourra inverser la tendance.
Est-ce que l'immigration peut compenser ?
Elle ne compense jamais durablement une démographie défaillante, Apolline. Oui, une immigration choisie peut aider. La France a besoin de renforts là où elle est faible, mais elle n'a pas besoin d'être submergée par une immigration incontrôlée, par une immigration insensée. Aucun autre pays ne s'est jamais sauvé ainsi. Une nation qui ne fait plus d'enfants perd vite sa cohésion et puis sa souveraineté.
En résumé ?
Écoutez, la démographie, Apolline, n'est pas un sujet comme les autres. C'est la matrice de tous les autres. Sans enfants, il n'y a ni retraité, ni croissance, ni puissance. La France, d'ailleurs, n'est pas un territoire. La France est un peuple. Et aujourd'hui, il disparaît. Toute action politique, tout projet présidentiel, législatif, doit dédier une énergie folle à ce sujet existentiel. Alors, Françaises et Français, faites l'amour, faites des enfants pour vous, pour eux, pour le monde et pour la France.
7h56, merci Louis Sarkozy pour ce véritable cri du cœur. Louis Sarkozy, jeune papa d'ailleurs, et voix de droite sur RMC. Demain à votre place, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Il est 7h57 sur RMC. Dans un instant, le journal de 8h à la une, ces agriculteurs qui durcissent le mouvement, notamment dans le sud-ouest. 75 points de blocage recensés ce matin. On sera en direct de la région de Toulouse. Il y aura aussi la météo, retour du soleil près de la Méditerranée. Pour le reste, c'est gris. Et puis l'économie avec Emmanuel Le Chip. Salut Emmanuel.
Bonjour à tous.
On a appris hier que les magasins Grand Frais allaient devenir américains.
Et oui, et je vous raconte tout ce que ça cache.
On se retrouve dans un instant sur RMC, il est 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h. Merci d'avoir choisi RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. De nouveaux points de blocage ce matin. Les agriculteurs qui se mobilisent désormais à Avignon, pas convaincus des promesses du gouvernement, à savoir l'accélération de la vaccination contre la maladie bovine. Les réactions aussi, tiens, vous allez les entendre ce matin à l'annonce d'Emmanuel Macron qui veut augmenter à 500 € le montant de l'amende forfaitaire en cas d'usage de stupéfiants. Encore faut-il que ces amendes soient payées. Et puis peut-être bien une affaire d'espionnage digne d'un roman dans le port de Sète après la découverte au début du mois d'un logiciel espion sur un ferry.
La colère agricole continue de faire tache d'huile.
Oui, le gouvernement promet donc d'accélérer la vaccination dans le sud-ouest contre la maladie bovine en sollicitant désormais les quelques 70 vétérinaires militaires. Mais en continuant, vous l'avez bien compris, les abattages de troupeaux au moindre cas. Et c'est toujours ce qui met en colère les agriculteurs et les agriculteurs qui se mobilisent ce matin sur un pont au sud d'Avignon. C'est un nouveau point de blocage donc où se trouve Caroline Le Canuet de la coordination rurale.
Le problème de l'abattage total n'a absolument pas été abordé et on sait très bien que c'est le point de clivage entre les agriculteurs et le gouvernement aujourd'hui. C'est cet abattage total qui est absolument insoutenable, qui met des éleveurs en grande difficulté économique, mais aussi morale, psychologique. Et nous, et quand je dis nous, c'est pas simplement la coordination rurale, c'est l'ensemble des agriculteurs de France. On est vent debout contre cette mesure d'abattage total.
Il y avait 75 points de blocage recensés hier soir, essentiellement dans le sud-ouest, 32 de plus que la veille. La 64, l'autoroute toujours coupée sur une centaine de kilomètres, c'est l'autoroute qui longe les Pyrénées où les réservations sont en hausse de quasiment 30% sur un an selon le site PAB pour les vacances là qui commencent à la fin de la semaine. Tiens, d'ailleurs, le maire d'Aix-les-Thermes, Dominique Fourcade, nous dit ce matin, on l'a appelé à RMC, bien que sa station est coupée du monde et qu'il commence à y avoir des rayons vides dans les magasins à cause des blocages sur la nationale.
Aix-les-Thermes est coupée du reste du monde, je pourrais dire, pour l'accès camion, et nous ne sommes plus alimentés, donc les grandes surfaces n'ont plus rien. On commence à avoir les magasins qui sont désapprovisionnés, il y a les rayons qui sont vides, mais ça commence à devenir un problème. Et nous sommes une station touristique. Les vacances scolaires qui arrivent, les hébergements sont réservés, archi-réservés. Mais quand les touristes vont découvrir que l'accès est extrêmement difficile et compliqué, je pense qu'ils vont annuler. On le voit à la station de ski, on n'a quasiment personne. La station de ski est ouverte, mais il n'y a pas un chat. Si ça persiste pour le week-end des vacances scolaires, ça va être un problème. Ça met à mal notre tissu économique.
Alors, on entend d'un côté les conséquences, de l'autre aussi on entend la colère. Romain Cluzel, du service politique RMC en direct ce matin. Même si la réponse ne convainc toujours pas les agriculteurs mobilisés dans le sud-ouest, on voit bien que le gouvernement multiplie les réunions pour tenter d'éteindre cette crise.
Exactement, le Premier ministre a décidé de changer de braquet, de monter au créneau. Les premières déclarations d'Annie Genevard n'ont pas suffi à calmer la colère des agriculteurs et Sébastien Lecornu a un objectif, éviter que les blocages se prolongent et s'intensifient, parce qu'à partir de la fin de la semaine, les vacances commencent avec de nombreux déplacements partout dans le pays à quelques jours de Noël. Sébastien Lecornu va d'ailleurs recevoir les syndicats agricoles à Matignon vendredi parce qu'une autre échéance vient s'ajouter à la colère des agriculteurs, l'accord du Mercosur. Un vote du Conseil européen doit avoir lieu vendredi avant une potentielle signature du traité samedi au Brésil. Inacceptable pour les agriculteurs qui organisent de nouvelles manifestations à Bruxelles et en France dès demain. Et sur ce dossier, c'est le président de la République qui tente de repousser le vote sans succès à ce stade. l'Allemagne ou l'Espagne, par exemple, poussent pour avancer, même sans la France. Mais Emmanuel Macron a tout de même un espoir. Si l'Italie se rallie à la position de la France, eh bien, cela suffirait pour bloquer cet accord du Mercosur.
Emmanuel Macron qui veut pilonner le trafic de drogue. C'est le terme qu'il a employé hier en déplacement à Marseille, en tapant, je mets plein de guillemets, sur les consommateurs de drogue et en augmentant le montant de l'amende forfaitaire de 200 euros aujourd'hui à 500 euros en cas d'usage de stupéfiants. Est-ce que c'est la bonne solution? Tiens, le maire de Marseille, Benoît Payan, s'interroge, écoutez-le.
Vous pensez qu'un consommateur qui prend le risque de payer une amende à 300 euros va être dissuadé par une amende à 500 euros? Moi, mes ennemis à moi, c'est ceux qui ont du sang sur les mains, c'est les narcotrafiquants.
Alors, on s'est penché sur ces amendes forfaitaires ce matin à RMC. Romain Hougue, on parle de combien d'amendes chaque année?
Eh bien, année après année, les forces de l'ordre en dressent de plus en plus. Ces amendes forfaitaires délictuelles, elles ont été créées en 2016, initialement réservées aux auteurs d'infractions routières. Elles ont progressivement été appliquées à d'autres infractions. L'année dernière, il y en a eu près de 500 000, dont 200 000 pour usage illicite de stupéfiants. C'est 7 fois plus qu'en 2020. Maintenant, le problème, c'est le taux de recouvrement de ces amendes. Emmanuel Macron ne le juge pas satisfaisant. Il est même loin d'être probant, selon un sénateur socialiste, auteur d'une proposition de loi visant à réformer ce type d'amende. Il a planché sur le sujet. Son bilan est sans appel. Au total, seulement 20% de ces amendes sont finalement payées. Une sur deux, si l'on regarde uniquement les infractions liées à l'usage de stupéfiants, ce qui met en doute, selon lui, l'efficacité de la réponse pénale.
Une info que l'on vient d'apprendre, le bilan de l'explosion d'un immeuble que s'alourdit à 3 morts dans l'Ain, à Trévoux, au nord de Lyon. Les secours en fait confirment qu'ils ont retrouvé le corps d'une troisième personne, la troisième personne qui était recherchée, une femme recherchée depuis l'explosion, sans doute liée au gaz avant-hier.
8h05 sur RMC, et c'est une affaire digne d'un roman d'espionnage.
Oui, qui se passe dans le port de Sète, donc en Méditerranée, où les services de renseignement enquêtent sur une tentative de piratage d'un ferry en escale à Sète. C'était il y a quelques jours, un homme originaire de Lettonie a été écroué après donc la détection d'un boîtier espion à bord de ce bateau, Julie Brault.
Oui, il s'agit d'un dispositif malveillant de très haute technologie appelé Remote Access Tool, comprenez, outil pour prendre à distance le contrôle d'un appareil. Un dispositif retrouvé vendredi dernier par les agents de la DGSI à bord du ferry Le Fantastique, un paquebot italien de 180 mètres de long amarré dans le port de Sète et sur lequel les enquêteurs ont interpellé deux hommes, un bulgare et un letton. Ce dernier est suspecté d'avoir piraté le système informatique du ferry pour en prendre le contrôle et le détourner. Et les enquêteurs cherchent désormais à déterminer qui lui a fourni ce dispositif malveillant et surtout dans quel but, parmi les hypothèses, celle d'une action violente ou encore d'un acte de sabotage pour le compte d'une puissance étrangère, la Russie se trouvant alors en tête de la liste des pays suspects.
On parle encore ce matin des petits colis qui, bien souvent, vous l'avez compris, viennent de Chine. Un rapport parlementaire nous apprend ce matin que leur nombre a été multiplié par 5 en 3 ans et que, eh bien, pourtant, seulement 0,01% d'entre eux sont contrôlés aux douanes. Le foot et le Paris Saint-Germain en finale ce soir. Vous voulez pas venir cette finale, c'est la finale de la Coupe Intercontinentale qui se jouera au Qatar contre les Brésiliens de Flamengo. Arthur Perrault pour RMC, en cas de victoire, les Parisiens deviendraient à jamais le premier club français à remporter 6 trophées en une année.
Oui, Paris peut réaliser ce soir à Doha ce qu'aucun autre club français n'a jamais fait. Pour l'entraîneur Luis Enrique, pas question de passer à côté de cet événement.
Je pense que c'est une motivation très claire. Marquer l'histoire à Paris, ça a été un objectif la saison dernière et continuer à marquer l'histoire, c'est l'objectif de cette saison.
Malgré les pépins physiques à répétition et des prestations en dents de scie en championnat, le PSG veut bien finir 2025. Le milieu de terrain Vitinha surmotivé.
Oui, on veut refaire la même chose, gagner un trophée inédit pour nous, pour PSG. Encore plus pour un club français, mais c'est ça qu'on a. Beaucoup d'envie de jouer ce match, beaucoup d'envie de ramener la Coupe à Paris, et on va être là à 100%.
Preuve que Paris veut briller ce soir au Qatar, pays de son propriétaire. Une équipe quasi-type est attendue avec le grand retour comme titulaire de Désiré Doué en attaque.
Voilà, et ce match, cette finale, à 18h, on l'aura évidemment sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Et puis à 8h08, tiens, je voudrais saluer les petits nouveaux, parce que si vous êtes dans le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Finistère ou en Vendée, vous pouvez désormais nous écouter en DAB+. Bienvenue aux nouveaux auditeurs d'RMC, donc, qui se trouvent notamment à Lannion, à La Roche-sur-Yon, à Ploermel. Vous êtes les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir sur nos ondes. Il est 8h08, on part au 32-16. Sofiane, qui nous appelle de la Marne, vous êtes chauffeur poids lourd. Bonjour Sofiane.
Bonjour Apolline.
Vous avez entendu ce député qui dit que, en fait, les petits colis venus de Chine, c'est une véritable tsunami, hein, c'est ce qu'il dit, qui est quasiment pas contrôlé. Et quand c'est contrôlé, on se rend compte que rien n'est aux normes. Vous êtes consommateur, vous, de ces petits colis, Sofiane?
Oui, moi je suis consommateur depuis presque maintenant au moins 10 ans. Franchement, au moins 10 ans. J'ai jamais eu de problème.
Vous après, consommiez, moi, ça veut dire quoi sur Amazon, en fait, si c'est depuis 10 ans?
Non, moi c'est plus AliExpress.
Ok.
Plus AliExpress, mais Amazon, finalement, c'est la même chose, sauf qu'il y a un intermédiaire entre les deux. Donc s'ils font la guerre à AliExpress, ils font la guerre à Amazon aussi. Moi, c'est juste... j'ai jamais eu de problème avec ce petit colis-là.
Vous achetez quoi?
Alors là, récemment, c'était des décorations d'anniversaire pour mes enfants.
Ok.
Vous voyez, décorations d'anniversaire. On paye ça peut-être 4 fois moins cher. 4 fois moins cher que dans une enseigne normale.
Et puis ça, vous arrivez direct à la maison.
Des décorations de moto.
J'aime beaucoup ça, Sofiane. C'est quoi vos décorations de moto?
Des décorations, je me suis trompé dans le terme, mais je veux dire.
C'est quoi, c'est des autocollants? C'est le tuning, quoi.
Rétroviseur, oui, voilà. Mais j'ai vraiment jamais eu de problème. Après, ce que je voulais dire, c'est que ça arrive souvent par la poste ou par des petits transporteurs. Donc ça fait aussi du travail. Moi, demain, il y a plus de petits colis en provenance de Chine pour la poste, mais je sais pas ce qu'ils vont faire.
Oui, et puis il y a une partie, c'est-à-dire on avait tout à l'heure un facteur qui nous a appelé au 32-16, et le facteur, il disait que c'était désormais 25% quand même de ces tournées, et à mon avis, c'est même peut-être plus dans certains coins. Merci, Sofiane.
Une dernière chose, tout est fabriqué en Chine.
Différence, Sofiane, c'est que si vous l'achetez dans un magasin, le magasin est comptable du respect des normes. C'est-à-dire qu'effectivement, il doit s'assurer, lui, que les normes sont bonnes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté Dominique Schelcher, le patron des magasins U, qui était mon invité hier, qui disait, on a même certains de nos responsables de magasins qui vont jusqu'en Chine pour s'assurer que tout ce qu'ils vont importer respecte les normes, etc. Sofiane, c'est quoi votre moto?
Alors là, actuellement, c'est une Africa Twin. Enfant DCT.
Ça y est, on est sur les routes avec vous. Il est 8h11, bonne journée à vous. On va parler économie avec Emmanuel Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Salut Emmanuel. L'origine, l'enseigne française, donc pardon, Grand Frais, passe sous pavillon américain.
Absolument, Grand Frais, c'est 450 magasins. Vous savez, ces magasins aux allures de marché couvert, spécialistes des fruits et légumes, des produits laitiers, des produits de la mer, de la boucherie. Elle est présente sur tout le territoire et elle est aujourd'hui sur le podium des marques préférées des Français. Ça pèse lourd, hein, Grand Frais. Il faut savoir que sur les fruits et légumes, ça pèse presque autant, quasiment, que Carrefour. Grand Frais appartenait au géant français de l'investissement Ardian. Il est racheté par le gestionnaire d'actifs américain Apollo. Dans la corbeille de mariage, il y a aussi des enseignes comme la boulangerie du marché, Mon Marché et Biofrais.
Pourquoi cette vente? Est-ce que ça veut dire que Grand Frais est en difficulté d'abord?
Non, Grand Frais va bien. Hein. Le chiffre d'affaires progresse à peu près de 8% par an et c'est quasiment la marque la plus rentable. Au mètre carré, Grand Frais, c'est plus rentable que Leclerc, imaginez-vous. Et le problème, c'est qu'il faut rappeler ce que c'est que la vocation d'un fonds d'investissement. C'est pas d'accompagner une entreprise toute sa vie, c'est d'acheter une entreprise, de la développer quelques années, puis de la revendre beaucoup plus cher qu'elle ne l'a achetée. Mission accomplie pour Ardian, qui avait acheté en 2017 Grand Frais pour 1,7 milliard d'euros et qui a dû le revendre là 4 ou 5 milliards d'euros. Donc à son tour, Apollo a de grosses ambitions.
Sur le fond, et presque j'allais dire, quand on fait nos courses, ça va changer quelque chose à la stratégie de Grand Frais?
Alors, ce qui va changer d'abord, c'est l'accélération du développement de l'enseigne. Mi-octobre a déjà été annoncé un projet de cession de 25 à 30 magasins Jiffy. Vous savez, Jiffy, ça va pas très bien, qui vont devenir Grand Frais. Grand Frais, par exemple, espère récupérer aussi beaucoup de magasins de bricolage qui, eux aussi, vont mal. Donc, on va avoir à peu près un rythme d'ouverture qui va s'accélérer. On en avait une quinzaine par an, on en aura 25. À moyen terme, Grand Frais espère doubler son nombre de magasins et surtout a pour objectif de se rapprocher des grands centres urbains. Aujourd'hui, Grand Frais, c'est plutôt à la périphérie des petites villes. Là, l'idée, c'est d'aller à la conquête dans les grandes villes. L'autre priorité, c'est de sécuriser les approvisionnements. Aujourd'hui, Grand Frais, c'est plus de 2300 fournisseurs, 95% européens, en allant d'ailleurs jusqu'à intégrer les fournisseurs au groupe. C'est ça qui fait la spécificité Grand Frais, du champ à l'assiette, et puis améliorer l'offre, évidemment, que plébiscitent les consommateurs, c'est-à-dire des produits qualitatifs, plus chers qu'ailleurs, mais ultra frais, et c'est là qu'est le défi, puisque avec la complexité, le vrai défi pour Grand Frais, ça va être de maintenir une logistique militaire, parce que c'est ça qui fait le succès de Grand Frais, c'est vraiment la durée très courte entre le champ et
le rayon.
Et le rayon. Exactement.
Emmanuel Le Chip, l'économie, 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. À 8h30, notez-le, l'invité du face-à-face, ce sera le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou. Il disait que la France n'avait plus les moyens d'être généreuse. Franchement, est-ce qu'il y a renoncé? On lui pose la question donc à 8h30. Et puis juste après, il y aura aussi Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup. Tous les jours à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h17, Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous. Tiens, avec Mathieu, nous aimerions à quelques jours de Noël, Apolline, les amis, vous faire passer un message très important. Stop à l'abandon des animaux pendant les vacances de Noël. Avec Mathieu, on se propose donc d'héberger gratuitement vos huîtres, vos saumons, vos crevettes, vos chapeaux, vos coquilles Saint-Jacques pour les fêtes. Ne nous remerciez pas, c'est important pour nous. Manu Le Chypre aussi est partenaire de cette opération. Il nous disait « Oh oui, des coquilles Saint-Jacques.
Oh, » oui. On le fait avec bon cœur.
« Oh oui, gavez-moi. Gavez-moi comme un canard du Sud-Ouest. Coin. Voilà, c'est une matinale solidaire.
C'est beau ça,
sinon.
Beau,
hein. Alors, en ce moment, justement, c'est les Secret Santa en entreprise. Vous savez, les Pères Noël secrets, vous connaissez le principe. On offre un cadeau à une personne sélectionnée au hasard avec un petit budget. On l'a fait ici, on le fait dans toutes les boîtes. Ils l'ont fait chez CNews. J'aurais adoré voir ça. Amis de l'heure des pros, c'est l'heure des cadeaux. Tenez, mon cher Jean-Marc Morandini, un livre.
Oh, le code pénal, je l'avais jamais lu.
On sait, Jean-Marc.
Eh ben moi, j'adore le rugby. Je vous ai acheté le calendrier des dieux du stade, catégorie moins de 15 ans. Vous pouvez l'afficher dans votre bureau. Ou alors dans le mien. J'ai fait les photos moi-même, c'était génial. Et je vous offre aussi, mon cher Pascal, un parapluie et un ciré jaune, parce que je sais que vous êtes en face de Philippe Bilger pendant l'émission.
Alors ça, vraiment, c'est très inélégant. Quant à moi... Pardon, excusez-moi. Quant à moi, mon cher Bilger, je vous offre un arbre généalogique à remplir. Merde, je me suis gouré de voix. Pardon, je refais. Quant à moi, mon cher Philippe Bilger, je vous offre un arbre généalogique à remplir. C'est plus marrant avec De Villiers, parce qu'il a des ancêtres qui sont beaucoup plus intéressants que ceux de tout le monde. Et vous, monsieur Bolloré, qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Du pouvoir! Du pouvoir!
Du pouvoir et des crêpes. Mais également, mais bretons avant tout. Voilà, excusez-moi pour la petite confusion.
François Bayrou a été hospitalisé à Pau pour une grippe très sévère.
Oui, c'est vrai que cette année, la grippe tabasse, on dirait un prof de Bétaram. Alors, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais je crois qu'il va déjà mieux. Hein. Cette nuit, il marchait dans les couloirs de l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Bayrou?
Je débranche les respirateurs artificiels de tous ces bâtards de boomers hors de prix. Allez, ça suffit de payer des retraites avec de la dette. La fièvre est peut-être pas tout à fait passée. Bisous à lui.
Pour la première fois, il y a plus de morts que de naissances en France. On reste dans le thème, j'ai l'impression.
Bah oui, je sais. Bah, m'engueulez pas, hein, je peux pas être partout. Voilà. Donc il faut faire des enfants. Non mais il y a tellement peu d'enfants, on est obligé d'en importer sur Chine maintenant. Ça ne va pas du tout. Louis Sarkozy nous disait tout à l'heure, dans sa chronique à 7h50, il nous a dit « Française, Français, faites l'amour. Français, chevauche ta femme comme le général de Crayembois chevauchait son destrier éclair du Kentucky à la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1756. » Il faut faire des enfants. Brigitte Macron disait hier
On peut reprocher tout ce qu'on veut à Harry Habitant, mais au moins... Non ! Brigitte, non ! Attention ! Il y a une caméra ! Oh, tu m'emmerdes, toi ! Aïe ! Elle est tendue en ce moment. Hein. Macron qui était à Marseille hier pour parler avec les narcotrafiquants, je suis sûr qu'il est allé voir deux petits de la DZ Mafia en leur faisant... Psst, vous n'avez pas du shit pour ma femme? Un truc qui détend, qui calme. Alors, sur le sujet des enfants, j'ai lu quelques articles. Les Français font moins de bébés par manque de moyens. En même temps, faire l'amour à but reproductif, c'est 10 minutes qui ne sont pas consacrées à une activité rémunératrice. Je suis désolé, c'est 10 minutes de perdu dans la France de Macron. Si encore on était payé par l'État, ouvrons des maisons France bébés. Comme France Travail, il y aurait une pièce avec de la moquette rose, du Barry White, un portrait de Macron au mur pour qu'on soit motivé à faire les travailleurs de demain qui payeront notre retraite, tout en étant indemnisé. Après, c'est un peu perturbant d'avoir conscience du problème. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais l'amour, j'entends « Bien, pense à ton pays, produis un travailleur !» Sinon, j'organise un Grenelle de l'orgasme piloté par Monique Barbu. Ça me coupe tout instantanément, que ce soit avec mes femmes ou mes maîtresses. À chaque fois, c'est le même truc. Et je vois Brigitte en rêve rajouter « Ouais, bouge-toi le cul, connard. Horrible, horrible. » Enfin, voilà, le gouvernement veut s'attaquer au problème. J'appréhende. Quand le gouvernement s'attaque à quelque chose, quand il s'est attaqué au pouvoir d'achat, on a eu l'inflation, le pouvoir d'achat a diminué. Quand il s'est occupé du chômage, ils ont réduit les droits. Quand il s'est attaqué à la retraite, on a réduit les retraites. Ça donne pas envie qu'il s'attaque à nos sexes. Je ne veux pas. Allez, à demain. Et fais les bébés.
La maison à demain, bébé. À demain, Arnaud, demain. C'est l'heure de jouer et de gagner.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
C'est l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent extraordinaire et on va l'ouvrir pour Nathan. Bonjour Nathan.
Et bonjour.
Comment ça va Nathan?
Ça va super, c'est très heureux.
Ah là 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 là, Nathan, restez avec nous. Hein. Vous êtes à Toulon et vous avez gagné. Alors attention, quelle jour on est? On est le 17, on ouvre la petite caisse. Attention, c'est toujours un petit suspense, je suis obligée d'ouvrir, déplier. Oh là 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 là. Nathan, vous avez gagné. Grâce à Micromaniazing, vous avez remporté la console Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart d'une valeur de 510 euros. J'ai l'impression de faire le juste prix. Et c'est un très très... Oh là là, c'est un très très beau... Ça y est, c'est Noël en fait. Hein. C'est Noël, Nathan.
Exactement.
Je vous rajoute, attention, avec Micromaniazing, on vous offre en plus la Miam Box. Elle me fait rêver, moi, cette Miam Box. Spécial Noël, une boîte mystère avec une sélection de friandises originales pour Noël. Madame, elle mange les bonbons. Et vous jouez à la Switch.
Exactement, avec les enfants, bonjour à la Switch, madame, par un nom à bras, bonjour à la friandise.
Et vous savez quoi, c'est pareil à la maison. Chez moi, je mange les bonbons et eux, ils jouent à la Switch.
Moi, je joue à la Switch et je mange les bonbons.
Il n'y a pas de débat. Allez, je vous souhaite un très joyeux Noël, Nathan, à vous, madame et les enfants. Il est 8h23, on se retrouve dans un instant. On va reparler, tiens, de la prime de Noël aussi. Parce que mon invité, c'est Jean-Pierre Farandou. Il était le patron de la SNCF. Désormais, il est le ministre du Travail et des Solidarités. Il avait dit en arrivant que la France n'avait plus les moyens d'être généreux. Pour autant, depuis, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à quoi on ait renoncé. Est-ce qu'il était pas mieux finalement à la SNCF? Je lui pose la question dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC. Il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
Des blocages malgré les annonces du gouvernement qui promet d'accélérer la vaccination des bovins contre la dermatose nodulaire grâce à des vétérinaires militaires réquisitionnés pour vacciner 750 000 bovins dans les semaines à venir. Annonce insuffisante pour éteindre la colère grandissante des agriculteurs mobilisés depuis 8 jours contre l'abattage de leurs troupeaux comme Maud Chara. Elle est éleveuse et membre de la Confédération Paysanne.
Ce qu'elle a proposé, c'est pas suffisant. Elle propose d'aller étendre sur une zone du sud-ouest, mais nous, on demande... Est-ce que ce soit élargi à tout le territoire français, que tous les éleveurs puissent en bénéficier. Nous, on se met en place à 9h30 à Voreppe. C'est une filtration du trafic pour expliquer aux automobilistes pourquoi on est là et quelles sont nos revendications. Ici aussi, en Isère, on est solidaire des autres et qu'on est sur les revendications nationales. Bien sûr que c'est important de montrer qu'on est là et puis on avisera au fur et à mesure, mais là, on est motivé pour y aller.
Dans l'Ain, un troisième corps retrouvé par les secours dans les décombres après l'explosion d'un immeuble à Trévoux lundi. Le corps d'une femme retrouvée hier soir. Deux enfants de 3 et 5 ans avaient déjà été découverts morts. L'assaillant de Sydney, inculpé pour terrorisme et 15 meurtres après l'attaque dimanche sur une plage de la ville australienne où s'étaient rassemblées des personnes pour la fête juive de Hanouka. 15 morts. Les premières obsèques ont commencé à se dérouler sous haute sécurité cette nuit. Le budget de la Sécu, définitivement adopté hier avec la suspension de la réforme des retraites, c'est le premier texte budgétaire adopté sans passage en force, sans article 49.3.
C'était le rappel des titres de Clara Gabillet. Dans un instant, mon invité est ministre du Travail et des Solidarités, SMIC, allocation, prime de Noël, emploi. Toutes les annonces du ministre dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Pierre Farandou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre du Travail et des Solidarités, ancien président, directeur général de la SNCF. De très nombreuses questions à vous poser sur le SMIC, sur les allocations, sur la prime de Noël, sur l'emploi, sur le budget bien sûr. Mais en préparant cette interview, je me suis demandé si finalement vous n'étiez pas mieux à la tête de la SNCF. C'était presque plus confortable, non ?
Bah, c'est différent, c'est sûr que la SNCF, je la connaissais très bien, j'ai passé 45 ans de ma vie, mais je suis content d'avoir accepté de m'engager pour le pays. Vous savez, moi je suis là pour les Françaises et les Français, travail, solidarité, il y a beaucoup de choses, quoi, tous les Français se sentent concernés par ces sujets. Si je peux être utile pour eux, bah, je le ferai bien volontiers.
Et c'est ce qu'on va voir justement, utile comment ? Alors d'abord dans un contexte évidemment où on attend de savoir si le budget de la France sera voté ou non, je vous interrogerai là-dessus, mais il y a une question évidemment très précise sur la prime de Noël, parce que c'est dans quelques jours. Et peut-être c'est même là-dessus qu'il y a eu une question presque, j'allais dire, de philosophie autour de votre arrivée au ministère du Travail et des Solidarités. Parce que lorsque vous êtes arrivé, il y a donc quelques semaines, vous déclariez, je vous cite, l'État français a été très généreux et vous disiez au fond qu'il serait difficile de continuer à l'être. Vous envisagiez en particulier sur cette prime de Noël de la restreindre pour ne plus la donner aux ménages sans enfants ou aux célibataires sans enfants. Au moment où on se parle, est-ce que vous avez changé d'avis ? Est-ce que les choses ont évolué ? Et la prime de Noël sera-t-elle versée à tous ?
D'abord, elle a été versée hier, la prime de Noël.
Donc ça y est, c'est fait.
Ça, c'est fait. Voilà, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle.
Y compris à ceux qui n'ont pas d'enfants.
Oui, elle a été versée dans les conditions habituelles. Donc, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas des enfants, du moment qu'on est bénéficiaire du RSA, on a reçu la prime de Noël. Personne seul, personne avec enfant, tout le monde a reçu la prime de Noël. L'année prochaine, donc là, ça renvoie à ce que vous avez indiqué, c'est le débat sur le budget pour l'année prochaine. Ce budget pour l'année prochaine, pour l'État, on cherche à l'équilibrer. Vous savez qu'on voulait même partir dans la copie initiale à 4,7% de déficit, parce que c'est très important que l'État français sorte progressivement ce problème de déficit qu'accroît la dette, taux d'intérêt de plus en plus élevé, la charge de la dette étant plus lourde. C'est ça. Dans cette copie initiale, c'est vrai, je l'ai dit, il y avait effectivement la proposition de réduire les bénéficiaires de la prime de Noël. C'était une proposition. Tout de suite, j'ai dit aussi que j'étais prêt à en discuter. Et d'ailleurs, c'est le Parlement qui va le faire. Donc, pour le moment, rien n'est encore tranché. Le Parlement, et notamment à l'Assemblée nationale, décidera de la manière dont tu veux appliquer la prime de Noël dans ce pays l'année prochaine.
Donc, il reste quelques jours, effectivement, pour en décider. À titre personnel, vous estimez toujours que l'État n'a plus les moyens d'être aussi généreux ?
Alors sur la question de fond, c'est tout le débat un peu du financement de la sécurité sociale, de notre système de protection sociale. C'est un vrai sujet. On sait que ça consomme de plus en plus de part de notre richesse. Je pense que moi, il faut ouvrir le débat. Je pense que c'est pas l'occasion d'un projet de loi de finances qui est un peu technique, qui va vite, on est au Parlement. Je suis prêt à engager un débat de fond, comme je l'ai fait sur les retraites à travers une conférence qu'on a lancée dans le pays avec les partenaires sociaux. Je suis prêt à réunir toutes les parties prenantes pour discuter c'est quoi notre modèle social, notre système de protection et comment on le finance. Je pense que c'est un débat qu'il faut mettre sur la table. On est un peu aux limites, un peu de système. Il est né, vous savez, après la guerre, hein, c'est le, voilà, on a un système de la sécurité sociale qui a 80 ans. Le temps est peut-être venu maintenant de remettre à plat les conditions de financement de notre système de protection sociale.
Ça veut dire, vous parliez à l'instant de la sécurité sociale, la semaine dernière, certains socialistes, Jérôme Guedj par exemple, disaient, moi je suis pour une grande sécu. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus le reste à charge d'un côté et les mutuelles de l'autre. En fait, qu'il y ait une grande sécu. Est-ce que ça fait partie des pistes de réflexion pour vous ?
Bah, moi je suis très
on voit là que la mutuelle, les prix des mutuelles vont encore augmenter. Est-ce qu'au fond on n'arrive pas justement à ce bout du système où c'est les vases communicants, où quand l'État ne veut plus, bah, il se déverse sur les autres?
Bah, aujourd'hui le système de la sécurité sociale en France, la protection sociale, les retraites, la maladie, il est payé par le travail, par des cotisations patronales, donc c'est renvoie au coût du travail, et salarial, qui renvoie d'ailleurs à la différence entre salaire brut et salaire net, qui est aussi un débat dans ce pays sur le pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, il est payé de plus en plus aussi par l'État qui comble le trou, puisqu'il manque encore de l'argent, les cotisations ne sont pas suffisantes. C'est ça qu'il faut mettre sur la table. Bon, il n'y a pas de solution évidente, hein, mais en tout cas, discutons-en, regardons les formules possibles, et je pense que ce débat sera très utile. Au fond, je suis en train de dire que la prochaine campagne présidentielle, elle sera sociale. Il faudra parler retraite, il faudra parler sécurité sociale, et on peut penser que le débat démocratique tranchera le modèle de protection que les Français souhaitent pour leur pays.
Ça veut dire que d'ici là, on a quand même le sentiment qu'à chaque fois qu'on essaye de toucher à un débat de fond, comme on le fait à l'instant avec vous, Jean-Pierre Farandou, on nous renvoie à 2027. Ça veut dire que d'ici là, au fond, ce sera une sorte de gestion des affaires courantes.
Ah non, on est prêt à faire beaucoup de choses. Moi d'ailleurs, je rends sur mon ministère à moi, emploi des jeunes, emploi des seniors, accident du travail. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et je suis prêt à les engager. Et honnêtement, il me tarde que la période budgétaire soit terminée. Ça me consomme beaucoup de temps. Moi, je suis sur les starting blocks, je suis prêt à partir. Je rencontre beaucoup de patrons de fédérations, par exemple professionnels, et je vois bien avec eux comment on peut les aider à mieux fonctionner. Moi, il me tarde de me mettre au service de mon pays, au service des entreprises, pour le travail et pour l'emploi.
Donc ça veut dire que pour ça, il faudrait que le budget soit voté et vite. On n'a pas l'impression qu'il sera voté avant Noël, hein.
Moi, j'espère. Vous savez, je suis un optimiste, hein. Je crois beaucoup au dialogue, je crois beaucoup au compromis. Ce qui va être très important, c'est ce qu'on appelle cette commission mixte paritaire de vendredi, avec 7 sénateurs et 7 députés. Ils ont en main, quelque part, peut-être, le succès de ce projet de loi de finances pour la France, ce budget pour la France. Espérons qu'ils arrivent à converger. S'ils convergent, ensuite, il faudra que ce soit voté. Mais moi, on fait tout côté État pour leur donner tout le matériau, tous les éléments, pour qu'ils arrivent à converger vendredi ou samedi.
Certains, au sein même de la famille politique du Bloc central, alors on sait plus très bien où est-ce qu'ils commencent, où est-ce qu'il s'arrête, mais quelqu'un comme Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, ancienne ministre du gouvernement, elle dit aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir sans 49-3. Il vaut mieux un 49-3 que pas de budget. Est-ce que vous faites partie de cela?
Ah non, là-dessus, moi je suis très aligné sur mon Premier ministre qui a décidé de ne pas utiliser 49-3, de donner la responsabilité au Parlement de faire la loi, la fabrique de la loi, parce que ce sont des lois dont on parle, hein, à la fois la sécurité sociale et le budget de l'État, ce sont des lois. Ben, nous apprenons, c'est très innovant, effectivement, peut-être dans la 5e République, hein, le pouvoir est donné au Parlement, le gouvernement participe bien sûr dans les négociations, dans les débats, dans la recherche de compromis. On a réussi pour la sécurité sociale, au fond, même si c'est peut-être plus difficile, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas non plus pour donner un budget à l'État français.
Donc, tant pis si ça doit prendre du temps.
Tant pis si ça doit prendre du temps, mais pas trop de temps non plus, parce qu'on a besoin d'un budget, c'est important. Par exemple, pour les armées, on est prêt à mettre 6,7 milliards d'euros supplémentaires pour mieux se défendre. C'est dans le projet de loi. On parlait de la prime de Noël. La prime de Noël aussi, elle est dans le budget. Donc c'est très très important de donner un budget. Et j'espère, moi je suis toujours optimiste et je crois à la capacité de compromis, qu'on peut y arriver d'ici la fin de l'année.
Le SMIC, la hausse du SMIC, est-ce que vous confirmez ce que les syndicats ont annoncé la semaine dernière? Est-ce qu'un décret sera effectivement présenté pour augmenter le SMIC et à quelle hauteur?
Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui normalement que ça se décide en Conseil des ministres. C'est ça la procédure. Le SMIC sera augmenté un peu plus que l'inflation. L'inflation est à 0,9%, c'est les derniers calculs sur un an. Le SMIC sera augmenté de 1,18%, donc avec un petit supplément par rapport à l'inflation.
1,18%,
oui.
Donc il y a une sorte de petit coup de pouce.
C'est un coup de pouce intégré au mode de calcul, parce que le mode de calcul fait que on donne souvent un peu plus que l'inflation. Et d'ailleurs, depuis 2021, le SMIC a déjà été augmenté de 17%, alors que l'inflation est à 15, ont été augmentés de 15% et les salaires de 15%. Donc on voit, le SMIC se tient bien, et via les mécanismes d'indexation, on arrive bien à le maintenir à un niveau suffisant.
Jean-Pierre Farandou, depuis lundi, 750 salariés de Brandt qui ont perdu leur emploi. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner sur leur avenir? Est-ce que le gouvernement va s'en charger? Est-ce que vous avez un peu d'espoir à leur donner?
Oui, d'abord c'est un drame humain. Moi, je viens de l'entreprise, vous le savez, hein. Donc une entreprise qui ferme, c'est un drame. C'est d'abord un drame humain, c'est un drame économique, mais c'est d'abord un drame humain. 750 salariés vont perdre leur emploi sur le site de Saint-Ouen et sur le site d'Orléans. On va les aider, le ministère du Travail en particulier. C'est notre travail, c'est notre job, hein. On va les accompagner un par un pendant 12 mois. On va les aider à retrouver un emploi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire financièrement? Ça veut dire en termes de formation, en termes de recherche d'emploi?
D'abord, on leur assure au minimum 75% de rémunération de leur salaire brut pendant 12 mois. Donc c'est une période assez longue où ils sont sécurisés au plan économique. Et deuxièmement, des conseillers emploi vont être mis à leur disposition pour des diagnostics individuels pour chacun. L'histoire de chacun est différente. Quel nouveau projet professionnel ils ont, on va les aider à réussir et à Saint-Ouen et à Orléans.
Il y a deux plans sociaux, j'allais dire silencieux, dans le pays. L'un dans le bâtiment et d'autres dans le commerce, et notamment le commerce de l'habillement. On apprend que IKKS, l'enseigne de vêtements français, va se retrouver en redressement. 350 magasins qui pourraient fermer. Là aussi, c'est à chaque fois des emplois. Quel regard vous portez là-dessus et est-ce qu'il y a un moyen de stopper cette hémorragie?
Il y a deux sujets. Il y a effectivement le traitement de fonds, on est envahi de produits chinois. C'est ça le problème. Il faut qu'on arrive à se protéger de ce plan d'invasion massive de produits chinois à très bas coût, avec du dumping social, des normes sanitaires qui sont pas respectées. Et voilà, il faut absolument qu'on se protège au niveau français, au niveau européen. Ça, c'est central, c'est stratégique.
Sinon, on s'est fait avoir. Franchement, sur cette histoire, on s'est fait avoir comme des bleus.
Ben, peut-être que l'Europe a été un peu naïve, hein. Je pense qu'une forme de naïveté de l'Europe, c'est fini. Il faut que l'Europe se prenne en main. On a d'un côté les Chinois qui veulent nous envahir, et de l'autre côté les Américains qui se protègent par leurs tarifs douaniers. Voilà, c'est ça la réalité du monde. Dans cet environnement-là, l'Europe doit devenir plus solide et se protéger davantage.
L'Europe et la France, hein, pardon, je fais une insertion sur cette question des petits colis. Je recevais ce matin sur RMC l'un des députés en charge du rapport qui sera dévoilé ce matin, qui disait que sur ces petits colis, seuls 0,008% de contrôle, et lorsqu'ils sont contrôlés, 9 produits sur 10 ne respectent pas les normes. Quand on sait ça, est-ce qu'il ne faut pas stopper net?
Bon, après, ce sont des discussions qu'il faut avoir là aussi au niveau français et au niveau européen quand même. Il faut être sérieux parce que...
Mais en termes de concurrence pour ceux qui, dans notre pays, respectent les normes lorsqu'ils fabriquent, c'est insupportable.
Oui, on est bien d'accord, je suis absolument d'accord. C'est bien pour ça qu'il est temps de se défendre. Il est temps de mettre en place des mécanismes solides, de se protéger. Il faut se protéger de produits qui sont pas aux normes, de produits qui sont dangereux, de produits qui sont en dumping social. Il faut se protéger. Ça, c'est l'amont. C'est absolument vital. C'est une forme de guerre économique, hein. Faut bien voir. Donc, faut se protéger. Et deuxièmement, bien évidemment, après c'est l'aval. Quand il y a des conséquences sur l'emploi en France, là, mon ministère intervient à fond et France Travail. On a une superbe agence, 55 000 conseillers qui sont mobilisés pour aider les Français à retrouver du travail. J'ai visité un France Travail à Saint-Denis il n'y a pas très longtemps. C'est très impressionnant. Ce sont des grands professionnels qui accompagnent chacun et on trouve des solutions. On a un système de retour vers l'emploi qui fonctionne bien dans ce pays. Heureusement, et franchement, ça fonctionne. Voilà. Donc, protection
donc,
en amont.
Donc, et les 350 magasins IKKS, donc effectivement 40 000 emplois qui ont été détruits sur les dernières années dans le monde du bâtiment. Vous ne redoutez pas que le chômage à nouveau se réinstalle comme un chômage de masse?
Non, d'abord on est résilient, il faut voir les chiffres, hein, pour le moment. Alors on voit bien que cette situation économique est terrible quand même, hein. On est pris en sandwich quelque part entre l'agression des Chinois et le protectionnisme des Américains. Voilà, on résiste pas trop mal en France. Je ne sais pas si vous le savez, mais la France a fait la moitié la croissance européenne à elle toute seule. Dans notre modèle, il est résilient. Et s'il est résilient, c'est peut-être d'ailleurs que les politiques qu'on a conduites ces dernières années sont pas trop mauvaises. Cet équilibre entre politique de l'offre, politique de la demande. On a des grands champions. On a l'aéronautique, je crois que le carnet de commandes d'Airbus n'a jamais été aussi plein. On a le nucléaire, on a le BTP, on a l'armement, on a des grandes filières qui fonctionnent très bien et qui tirent toute l'économie française. Voilà, donc tout ça, nous l'avons en main. Donc certes, tout n'est pas parfait, mais honnêtement, notre pays résiste bien et on a des atouts pour résister dans cette grande concurrence mondiale qui s'organise.
Jean-Pierre Farandou, la question des allocations familiales. Le projet de loi de finances sur la sécurité sociale qui a donc été adopté prévoit de décaler l'âge de majoration des allocations familiales de 14 à 18 ans. Aujourd'hui, quand votre enfant avait 14 ans, votre allocation familiale était revalorisée, considérée qu'il vous coûtait plus cher. Ça ne sera qu'à 18 ans. Est-ce que vous allez pallier à cette question-là pour les Français, pour le manque à gagner que ça serait pour les familles?
Ouais, ça c'est le Parlement qui l'a décidé. La loi, elle va s'appliquer. Voilà. Là encore, faut pas oublier qu'il y a une notion de recherche d'économie quand même. C'est l'équilibre entre l'économie et le social.
Honnêtement, déjà que les gens font pas de bébés.
Il faut que tout le monde fasse des efforts. C'est bien le problème. On voit bien que chaque fois qu'on demande des efforts dans ce pays, c'est compliqué à accepter. Comment on fait? On peut pas à la fois équilibrer ou chercher à équilibrer la sécurité sociale et refuser tous les efforts. Alors, les efforts, c'est compliqué, c'est difficile à assumer aussi, hein, bien sûr, pour un gouvernement. Mais c'est notre devoir aussi de trouver ces équilibres économiques, sociaux. Surtout quand ça n'est pas trop mal sorti, ce budget, il est pas mal. Il a évité le dérapage des comptes de la sécurité sociale avec un chiffre qui reste raisonnable, même toujours en déficit. Mais on peut par rétablir l'équipe d'un seul coup. Il apporte beaucoup de bonnes choses aux Français sur la santé, sur les retraites.
Vous l'assumez,
oui, je l'assume. Et moi, honnêtement, ma lecture, je trouve que c'est pas un mauvais budget. J'entends beaucoup de critiques que je trouve excessives. Il arrange la retraite des femmes, par exemple. Depuis le temps qu'on a parlé, les femmes qui ont des enfants verront leur retraite améliorée. Il arrange aussi tout ce qui est l'accès aux soins dans les territoires. Donc il y a plein de bonnes choses dans le budget. Regardons ce qui va bien. Attention à pas tomber dans le catastrophisme dans ce pays. On voit toujours ce qui va mal, on le boursouple, on ne voit pas ce qui va bien. Or, il y a beaucoup de choses qui vont bien dans ce pays.
L'allocation sociale unique, ça faisait partie des choses auxquelles vous croyez beaucoup. Vous avez encore dit il y a 10 jours que vous aviez un projet d'allocation sociale unique pour décembre 2025. Est-ce qu'on y sera ?
Alors l'allocation sociale unifiée, c'est rendre notre système d'aide plus lisible, plus simple, plus accessible, plus équitable. Voilà, donc c'est ça l'objet. Et on ne renonce pas, bien évidemment.
Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des multiples guichets ou plusieurs lignes, on aura... Expliquez-nous vraiment ce que ça changera au quotidien.
Bon, vous aurez un compte social unique où chacun pourra savoir exactement ce à quoi il a droit. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et on sait d'ailleurs, des gens n'accèdent pas à leurs droits parce qu'ils ne savent pas bien s'y retrouver dans la jungle des systèmes qui existent. Et deuxièmement, vous avez aussi un revenu social de référence, ou par foyer, où on saura exactement finalement le niveau de revenu d'un foyer, ou par le travail, ou par les aides. Et à partir de là, c'est beaucoup plus équitable pour allouer un certain nombre d'aides. Voilà, c'est plus. Et deuxièmement, je le redis, tout ça, bien évidemment, ça rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Il y a un plan des solidarités dans ce pays. On a de la pauvreté, c'est pas nouveau. Il y a 10 ans, il y avait 9 millions de pauvres, il y en a 10 millions. Donc c'est pas nouveau. Qu'il est pour dans ce pays. Par contre, nous nous battons contre la pauvreté avec beaucoup d'énergie. Ce système d'aide, il est là pour ça.
Je voudrais aussi vous interroger sur la démographie, parce qu'on l'a appris hier, ça y est, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de morts que de naissances dans ce pays. Ça aura forcément des conséquences sur notre modèle social, comme vous le disiez, qui est à revoir. En gros, à un moment ou à un autre, il faudra soit qu'il y ait davantage d'immigration, soit qu'il y ait des gens qui travaillent plus longtemps, soit qu'on renonce à un certain nombre d'aides qui ne seront plus financées entre les actifs et les retraités. Qu'est-ce qu'on fait ?
C'est vrai que la démographie, c'est ce qui secoue le plus tous nos systèmes de protection, bien évidemment. Notre système de protection, il a été conçu, comme on le disait, après la guerre. Il y avait 4 actifs pour un retraité, maintenant il y a 1,4 actifs pour un retraité. Voilà.
Et là, on voit que ça va pas s'améliorer. Voilà.
À l'époque, l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Heureusement, grâce à le progrès de la médecine, les gens vivent plus vieux, on sait que le coût en maladie est plus élevé. Donc, vous l'avez dit, la démographie vient questionner tous nos systèmes d'aide. Voilà. Donc, comment il faut faire ? Il faut effectivement, d'abord, il faut l'admettre. Il faut ouvrir les yeux. Vous savez, la lucidité, c'est pas toujours facile d'admettre les choses. Après, bien oui, on voit bien qu'effectivement, il va falloir certainement travailler plus de travail. Alors, plus de travail, ça veut dire aussi que les seniors travaillent davantage. Même si ça va mieux, là encore. Commençons par regarder la bouteille à moitié pleine. Le taux d'emploi des seniors, le taux d'emploi des jeunes n'a jamais été aussi élevé dans ce pays. On progresse. Mais on a encore des marges de progrès par rapport à la moyenne européenne. Donc, moi, je veux travailler sur ces deux sujets. Taux d'emploi des jeunes, taux d'emploi des seniors.
Un mot sur la colère agricole. En tant que patron de la SNCF, vous sillonniez tout le territoire français. Quel regard vous portez sur cette colère ? Est-ce que vous imaginez qu'elle puisse se calmer ?
Moi, d'abord, j'allais dire, je comprends la colère agricole parce que voilà, c'est mon histoire personnelle, c'est pas très important, mais mes grands-parents étaient les paysans du Sud-Ouest dans les zones qui sont concernées.
Exactement.
Voilà, et des vaches, j'en ai connu dans les fermes et je connais l'attachement des paysans à leurs vaches. Ils les appellent par le prénom. Vous voyez, elles ont des prénoms, les vaches. Donc, le lien affectif est très important. Voilà. Donc, je fais court, mais je comprends tout à fait. Ce que le gouvernement a décidé, c'est de massifier, d'accélérer la vaccination dans le Grand Sud-Ouest, dans non seulement les zones infectées, mais au-delà. Donc il y a 5 départements concernés par des infections. C'est très contagieux, c'est une maladie qui est terrible. Donc faut vraiment mettre le paquet, faut les isoler. Et il y a un cordon sanitaire, 6 départements autour, pour faire vraiment un cordon sanitaire avec tout le reste du pays. L'enjeu, c'est d'éviter que cette maladie ne se propage pas aux 16 millions de bovins dans notre pays. Donc on met le paquet, 750 000 vaccinations vont être faites. On mobilise tous les vétérinaires, les actuels, les retraités, ceux de l'armée, ceux de l'État, les étudiants. On met le paquet, on commence par l'Ariège. Il y a 1000 fermes en Ariège où la vaccination sera faite d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est un effort de mobilisation générale. Je remercie d'ailleurs les vétérinaires qui se mobilisent tous. Vraiment, tout le monde se mobilise pour éradiquer cette maladie, notamment par un effort massif de vaccination accéléré dans le Grand Sud-Ouest.
Avec cet effort, vous vous dites qu'il faut lever les blocages désormais ?
Ça, il appartient aux organisations syndicales agricoles de voir ce qu'elles veulent faire. Moi, l'expression de la colère, on l'entend. Après, je crois que l'État, une fois de plus, voyez, face aux difficultés, l'État répond présent. Moi, je voudrais. On a parlé de Brandt, on parle de la vaccination. On fait face à des dangers pour les Français. On est là pour protéger les Français. On est là pour agir et apporter des solutions.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, ancien président, directeur général de la SNCF. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup, Jean-Pierre Farandou, le vrai, est resté avec nous ce matin. Rebonjour, monsieur Farandou.
Bonjour.
Et son successeur à la SNCF, David Guérimaud.
Bonjour. Bonjour, Jean Castex.
Vous avez reconnu, monsieur Castex.
Les imitations sont tellement parfaites. Je voulais remercier Jean-Pierre Farandou, mon prédécesseur à SNCF, qui m'a laissé une entreprise dans un état. Avec des liaisons TGV qui changent la vie des gens, il faut bien le dire. Le Lyon-Bordeaux, parce qu'il est de Bordeaux, le Lyon-Bordeaux direct, bon, qui fait un petit crochet par Paris.
Voilà.
Mais pareil, le Strasbourg-Brest, direct, qui fait un petit crochet par Perpignan.
Bien sûr.
Bref, il m'a laissé un maillage exceptionnel. Vous voyez, ce qui fait que je n'ai plus rien à faire, je pantoufle.
Merci, monsieur Castex. Il y a un de vos anciens cheminots, tiens, monsieur Régis, qui souhaitait vous saluer.
Oui, je voulais saluer mon ancien président, Jean-Pierre Farandou. Moi, je suis qu'un petit cheminot. Je vous dis quelque chose, peut-être, non c'est, hein, si, le train pour Pau.
Voilà.
C'était moi, le train pour Pau. Hein, c'est même moi qui ai remis Bérou dans le train pour Pau. Oui, Jean-Pierre, c'est un exemple. C'est le seul cheminot qui bosse à 68 ans, même s'il en fait 10 de moins. Hein. C'est le seul cheminot qui bosse. C'est pourquoi il bosse jusqu'à 68 ans, pour payer les retraites de ceux qui sont partis à 47.
Ah, voilà.
Et 3 mois. C'est important, les 3 mois. Hein. C'est voilà. Mais maintenant, Jean-Pierre, les ministres du Travail, parce que la SNCF, c'est un tremplin. C'est un tremplin, sauf pour Castex qui l'a pris à l'envers, le tremplin.
Merci, monsieur Régis. On reproche aux Français de ne pas travailler assez. Nos voisins allemands travaillent chaque année près de 120 heures de plus que les Français. Angela Merkel, vous l'avez entendu, est avec nous.
Oui, bonjour, monsieur Farandou. Bonjour, Apolline de Mahalirp. C'est vrai que le temps de travail, c'est un vrai sujet pour vous en France. Et regardez, rien qui s'est dans ce studio, ils sont 15, d'accord? Mais il n'y a que Apolline qui bosse. Et puis, si ça va, les autres tranquilles. Hein. Regardez ce garçon, ce jeune garçon, Aurel Getsch.
Oui,
il est médecin. Puis, on ne dirait pas si, mais il a le diplôme. Il y a plein de patients dans les urgences qui attendent, qui sont bondés. Lui, non. Lui, il fait les petits selfies. Il rigole. Voilà. Et dimanche, il fait 2 fois 3 minutes de blague et après, la journée, elle est finie. Et Texer, il liste un genre. Ils font les formations, tu parles. Ils font pas les journaux entiers. Ils font le petit flash. Ils ont un petit flash, ils vont une pause. Et petit flash encore. Non, franchement, c'est un pays de feignasse. Voilà, il n'y a qu'à Apolline qui bosse vraiment. Et Canteloup aussi, beaucoup.
Oui, Canteloup.
C'est peut-être le plus gros bosseur. Parce qu'Apolline, juste, elle lit, mais c'est Canteloup qui l'a tout écrit. Si. Tu sens l'orgueil d'Apolline. Elle est perdue, elle est pauvre. Tu veux faire le test?
Non, arrêtez, c'est n'importe quoi, Madame Merkel. Allez, on enchaîne. Justement, on va faire travailler un petit peu Thibaut Texer pour un flash info. Pas plus de 3 minutes, Thibaut.
Oui, comptez sur moi, Apolline. Ce matin, je vais essayer de parler un peu moins fort, par car à force de beugler, j'ai peur de voir débarquer un vétérinaire pour me vacciner contre la dermatose. Lutte contre le narcotrafic à Marseille. Emmanuel Macron a annoncé que l'amende pour usage de drogue va passer de 200 à 500 euros. Mauvaise nouvelle donc pour les consommateurs qui, pour pouvoir payer leur amende, vont devoir se mettre à dealer. Et puis, c'est une première depuis 1945, il y a plus, de décès que de naissance en France. Ségolène Royal souhaite réagir.
Oui, écoutez, cette baisse de la natalité, écoutez, c'est normal, c'est une évidence. Hein. Un homme sur deux trompe sa femme et l'autre est infidèle. Hein. Voilà. Donc forcément, ça donne pas envie aux femmes. Qu'est-ce que vous voulez, moi? Mais il faut y aller quand même, il faut faire comme moi, il faut se pincer le nez.
Non.
Oui. Alors, à retour, les jeunes, moi j'ai déjà donné. Hein. J'ai Texer, j'ai fait 4 gosses à François Hollande.
Oui,
oui, alors si, de mémoire, 4.
Oui, de mémoire.
Oui,
aussi,
oui, même moi, ça me surprend, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais écoutez, c'est ça, il faut être patriote. Hein. Il faut avoir le sens du sacrifice. Hein. Moi, vous savez quoi, je mériterais d'avoir une flamme qui brûle en permanence à côté de celle du soldat inconnu pour avoir tant donné à mon pays.
Madame Royale, c'est modestie. Le leader de Place Publique nous a rejoint pour parler de la dermatose nodulaire. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Oui, bonjour Apolline. Bonjour à Jean-Pierre Farandou. Il faut absolument, je le dis, tout faire pour que cette épidémie reste contenue à l'Ariège et n'atteigne pas notre pays.
Excusez-moi, monsieur Glucksmann, l'Ariège, c'est en France.
Comment ça en France?
Attendez.
Les habitants de l'Ariège. Excusez-moi, mais il y a un accent, pardon, ils ne parlent pas français. Attends, je regarde sur Google Maps. Non, je ne vois pas l'Ariège. C'est dans quel arrondissement de Paris?
Non, l'Ariège, c'est dans c'est un département français, c'est la région Occitanie.
Occitanie. D'accord, bon, ouais. Écoutez, je vous fais confiance. En tout cas, le gouvernement, et c'est une urgence, doit prendre des mesures drastiques.
Abattre les troupeaux?
Non, faut carrément interdire l'élevage et favoriser la production végétale, production de quinoa, de graines de chia, de baies de goji. Est-ce qu'on veut voir un monde agricole totalement dérégulé avec des céréales qui contiennent du gluten? Non, mais vous avez bien dit, monsieur Parandou, du gluten, vous imaginez le poison avec du lait qui ne provient pas du soja et pourquoi pas aussi des pokéballs non végétariens et de vin non bio.
Non,
il est plus que temps, et je le dis solennellement, que notre pays soit en phase avec son époque. Vous avez vu la pub Intermarché?
Oui.
Ben, même les loups deviennent véganes, c'est le sens de l'histoire.
Merci Raphaël Glucksmann. Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des Grandes Gueules. Quel est le programme, Alain?
Eh oui, bonjour Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous parlerons du retour du budget à l'Assemblée nationale avec Christian, qui est carrossier à Bordeaux, pas calant, et qui, justement, est en situation de surendettement. Et puis, nous reviendrons également sur cette terrible explosion liée à une fuite de gaz dans l'Ain avec Anne-Marie, qui viendra témoigner, car elle habite un immeuble où, justement, il n'y a que des radiateurs électrique. Enfin, nous évoquerons le Mercosur avec Kader, qui est couvreur à Carcassonne, qui nous apportera son regard sur cet accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, puisqu'il a lui-même acheté un maillot du Brésil lors de la Coupe du Monde 98. Ouais, les meilleurs experts, vous l'avez compris, sont dans les GG.
Merci Nicolas.
Merci. Nicolas, passe à Tantou, qu'on retrouve demain à 8h50 sur RMC. Quel